Avertissement à tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture ou camion. Bouclez votre ceinture. Interdiction de boire. Pour les prochaines minutes, toute votre attention doit être sur votre radio. Car c'est Radio Shock and Friends qui débute à l'instant. Radio Shock and Friends.
Okay, good evening. This is your captain speaking with just a little flight information.
Attache ta ceinture. Toute l'équipe de Radio Shock and Friends se prépare au décollage.
Radio Shock is there! Radio Shock and Friends! Yes, sir, mon homme, on est en onde, mon doff.
Hey, là, je fatigue, là.
Arrête de. Là, faut dire à tout le monde qu'il y a un étudiant qui s'essaye dans le parking ce soir.
Il y a deux chars de parking en parallèle. L'un des chars est le mien. Et il y a quelqu'un qui essaie de se parquer entre les deux, je te dirais. Oui, on a le téléphone, Witness. Mais,
Non, mais c'est ça, l'étudiant depuis tantôt qui essaye de.
pas de la safe, je peux dire.
C'est je te dis, toi, c'est pas terrible à voir aller. Une chance que le cours de conduite est obligatoire. Hey, bienvenue tout le monde. Vous êtes à Radio Shock Live sur les ondes de XM 172. Alors, deuxième émission en ce début d'année 2010. On est très heureux de vous retrouver. Hein. Chaque semaine, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Et ce soir, ben comme on vous a dit, on vous a réservé une émission ben telle qu'on a annoncé un peu partout sur le net. On va avoir notre ami Monsieur Rénal Duberger qui va venir nous parler de la catastrophe d'Haïti sous un angle qu'on retrouve pas actuellement dans nos médias. Puis on va parler d'autres choses aussi, parce que comme on avait dit le dernier coup, Monsieur Duberger, il y a des opinions qui sont intéressantes à partager. Fait qu'on en a profité pour, tu sais, pour l'amalgamer un peu aussi aux autres sujets qu'on a pour vous ce soir. Donc, ce soir, il y a une grosse équipe hein, qui s'est mise en place. Radio
les
Shock
Friends.
And... Ah oui, là c'est vraiment le concept Radio Shock and Friends. Notre ami FBI qui est de retour parmi nous. Salut FBI. Je vais ouvrir ton micro, je vais le monter, ça va aller mieux. Tu vas
ressembler aussi.
Ah oui, c'est ça. On est un peu perturbés. On a beaucoup de gens, c'est vrai. On a notre ami Seb qui taponne sur son iPhone, sur son
divan. Ça a l'air le fun.
Ça a l'air le fun, c'est ça. Beaucoup de plaisir. Il y en a qui appellent ça un fifth phone.
Ah
ouais? Ouais, c'est ça. Puis on a notre ami Witness qui vient de se joindre à nous, qui va prendre les appels et le chat. On vous rappelle, hein, on a une personne maintenant dédiée à la prise d'appel et au chat. Donc, ça va être intéressant d'avoir...
Le temps qui s'installe.
Ouais, le temps qui s'installe, qui vient toujours juste d'arriver. Alors, ben c'est ça. Je pense que on va, ce soir, vivre une émission qui va être assez intéressante. En tout cas, on l'espère toujours, comme à chaque semaine. Soit dit en passant, on va vous donner les numéros de téléphone. C'est le 1-866-497-4728. Et pour ceux qui sont de la région de Québec, c'est le 418, bien sûr, 780. Vous avez le 0876 et le 0877. Donc, ça va être intéressant d'avoir vos commentaires ce soir. Et je vous dirais d'appeler là au fur et à mesure qu'on va avancer dans les sujets. Mais si on vous met pas tout de suite en onde, ben c'est peut-être parce que aussi on veut finir le point avec notre invité, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à vous livrer. Puis avant de poser vos questions, ben je pense que ça va être important comme ça de peut-être écouter là 10 ou 15 secondes de plus avant de nous appeler, parce que c'est un sujet. Tu sais, des fois quand on aborde des sujets assez lourds, mon doff, tu sais comment ce que c'est. On veut des fois tout livrer, puis faut attendre des fois d'avoir toute l'information, mais les lignes sont ouvertes. Le chat aussi sur la page de radioshocklive.com. Et si vous avez accès à la messagerie texte, vous avez un iPhone puis vous voulez nous envoyer un petit message texte, ben faites-le à partir du live @radioshocklive.com.
Bref, on est accessible.
On est accessible. On est des gens très accessibles, mon doff. En parlant d'accessibilité, ça n'a pas de lien.
On va en trouver un.
Ouais, c'est ça. Il faudrait trouver un lien avec accessibilité et soirée du hockey.
Oui, effectivement, le thème de l'accessibilité.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une petite parenthèse que je voulais faire ce soir avant qu'on commence avec nos gros sujets, parce que on a toujours des gros sujets à Radio Shock. Non, mais tout ça pour dire que c'est le fun un peu de regarder ce qui se fait au petit écran, parce qu'on essaie d'innover mais avec des choses qui existent depuis fort longtemps. La soirée du hockey, c'est une institution au Canada, vous le savez, là, la soirée du hockey. Moi, je me rappelle, étant kid, le samedi soir, j'allais sur les genoux de mes oncles ou de mon père voir le match, là, puis j'avais le droit à l'écouter jusqu'à la deuxième période. Parce que il était l'heure que je me couche après la deuxième, je me souviens pas, parce qu'à l'époque, ça commençait plus tard.
Ça commençait à troisième période.
Ah, là, toi, tu
même pas ouais. pu le
mais là, toi, tu parles là, vraiment au début de la télé. Oui, c'est vrai.
Il rentrait en onde en troisième période.
Oui, c'est ça.
Fait que lui, il n'aurait pas pogné pendant tout.
Non, ça, j'aurais pas été chanceux. Mais je te parle à la fin des années 70, début des années 80, là, j'avais le droit d'écouter, je me souviens, la deuxième période. J'écoutais la troisième, mais dans le lit, puis accroupi, là, en dessous de la porte, là, pour être sûr que personne me voit. Mais tout ça pour dire que tout le monde a grandi avec la soirée du hockey et surtout son hymne.
Le thème,
qui d'ailleurs était un litige très fort longtemps, hein, parce que là, il y avait des questions de droits d'auteur, puis tu sais, on voulait pas nécessairement que ça soit utilisé, parce que, je sais pas si vous vous souvenez du litige, c'était surtout au niveau des sonneries des téléphones, parce que beaucoup de gens, c'était une des sonneries les plus téléchargées. Quand on pouvait, là, tu sais, avec les premiers téléphones, là, t'avais l'option de télécharger, ben c'était la sonnerie la plus téléchargée. Il y avait eu de nombreux litiges à l'époque. Oui, parce que c'est là que la personne qui avait composé cette chanson-là, c'est une dame, je peux pas vous dire son nom, garde. C'est pas important, là, dans l'histoire, mais elle s'est rendue compte, là, vraiment que, tu sais, t'avais des compagnies de téléphones en arrière de ça qui faisaient des, c'était quoi, là, une sonnerie aujourd'hui? Je sais même plus combien c'est rendu, tu mais vois. 2,5 piastres, 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres, là. Ah, fait que, ça peut aller, écoute, là, quand tu parles d'un album qui se vend à peu près 15$ maintenant, à peu près un album de musique, puis tu dis qu'une sonnerie, ça se vend 3-4$. Fait qu'imagine, là, c'est facile de faire de l'argent assez rapidement. Des fois, on sous-estime, puis on se dit, c'est quoi ces gosses-là de sonnerie? Mais quand on regarde là plus en profondeur, puis je pense que ceux qui ont des droits d'auteur aujourd'hui regardent à ça, ouais, parce que c'est des produits dérivés. Mm-hmm. Mais ce soir, tout ce que je vais vous faire entendre, puis on va vous donner le choix, parce que là, on a des avis partagés autour de la table ce soir. Mm-hmm. J'ai été renversé, parce que là, j'ai écouté le hockey cette semaine, puis c'était TSN au lieu d'RDS. On avait perdu le signal, fait qu'on dit, on va aller à TSN. Mais je pense qu'on devrait en faire une habitude, parce que crissement que le son est meilleur, puis je te dirais que la description du match est quelque chose. Mais là, c'est pas ça, je te vois, mon batteur Neil de Rush qui parle à tout mon homme. Je suis là, hey, watch out, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'enfer. Fait que je vais vous la faire écouter. Je sais pas si vous avez entendu cette pièce-là, mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est de la brique. Puis là, on est partagé. Toi, Doff.
Moi, je suis plus pour celle-là.
T'es plus
celle
pour celle-là.
Aussi. Puis il y en a que j'aime, moi.
Toi, FBI, je pense que t'es plus pour l'autre.
Non, je suis plus pour le old school.
Ah, t'as old fashion.
Oh, la vraie version.
Alors, on va écouter ça. C'est juste un petit clin d'œil qu'on fait à la soirée du hockey. Écoutez bien ça. Non, c'est pas celle-là que je vais mettre. Je vais mettre celle de Roche. On va commencer avec celle de Roche. On y va. Vous avez compris le principe, là.
C'est le drum. Le drum, c'est le drum.
Ben, c'est sûr, là. T'sais, on parle de Neil de Rush. Donc, c'est vraiment axé sur le drum, comparativement à celle que Simple Plan aura fait l'année dernière pour RDS. Donc, on écoute ça.
Plus guitare. Hein?
Plus guitare, ouais.
Ouais, plus guitare, ça. Plus souvent habitué, je comprends que ce soit la guitare qui prend l'emphase. Hein.
Ouais, mais tu sais, c'est plus une rythmique qui est un peu différente. J'ai l'impression qu'on revient toujours avec le même pattern avec Simple Plan, beaucoup plus qu'avec l'autre, où là, on essaie de jouer un petit peu sur les accents. Mais c'était mon petit clin d'œil, parce que, regardez, là...
Mais l'idée, c'est qu'ils ont-tu gagné, Canadiens, finalement?
Non, mais ça, on s'en fout. Je te dirais que... Non, mais mon point là-dessus, c'est que si vous êtes au Québec, vous écoutez RDS, ben vous attendez cette version-là de Simple Plan. Puis si vous êtes du côté du Canada anglais, puis vous écoutez TSN, ou vous écoutez TSN, on va dire, ben vous avez l'autre version. C'est une différence de culture, mais dans l'approche, moi, je trouve que on est allé chercher vraiment un band ou quelqu'un qui est plus international, tandis que Simple Plan, non.
Ben, je me plante en disant ça.
Mais je parle d'un point de vue animation ou générationnel, là, c'est beaucoup plus Rush, tu vas chercher beaucoup plus large. C'est ce que je veux dire. Simple Plan, monsieur, madame, tout le monde, les connaissent pas nécessairement. C'est sûr qu'ils ont vu à Star Academy, tu vas me dire.
C'est sûr qu'ils n'ont pas le même nombre d'années aussi, je veux dire, dans le milieu. Non, mais tu sais, je veux dire, Rush,
ça existe. C'est ça, ils n'ont pas la même notoriété.
Non, exactement.
Puis le batteur de Rush a été reconnu longtemps comme le drummer, tu sais, progressif, puis le drummer qui en mettait, puis qui en donnait pour son argent, versus peut-être Simple Plan, qui n'est pas reconnu pour être non plus un groupe qui, tu sais, qui est, comment je pourrais dire, formé de virtuoses de la musique. Là. On s'entend pas que... On s'attend pas de Simple Plan de nous faire quelque chose non plus de
Tom Sawyer.
Ouais, c'est ça, t'as quelque chose de très développé. Je dénigre pas encore le style
non,
de musique.
Ils sont très bons, Simple Plan.
C'était le parolier de Rush, je pense. Hein?
Geddy Lee.
Oui.
Le batteur, c'est le parolier.
Ouais, faut pas sous-estimer des fois vraiment, son apport. C'est un petit clin d'œil. On passera pas l'émission là-dessus. Avez-vous entendu notre ami P, le P, c'est-à-dire qui était de retour cette semaine? Le P qui s'est joyeusement bon pour
faut pas dire foutu de notre
non,
gueule,
non, mais payé de la tête un peu des autres participants sur Radio X772. Donc le P est allé d'une petite intro, tu sais, puis c'est correct parce que
c'est très cool,
il est vraiment génial cool, avec ça. Puis je sais pas si tout le monde l'a entendu, puis je voulais le faire écouter à nos auditeurs de Radio Choc parce que j'ai trouvé ça intéressant quand même, c'est un regard du pays par rapport aux autres shows. Tu sais, je peux pas dire que, regarde, je veux dire, c'est une parodie aussi, il faut la prendre, hein, toujours avec un grain de sel, puis je pense à quelque part, c'est toujours flatteur quand même de voir que, bon, tu sais, on n'est pas oublié, pareil, dans cette parodie-là, malgré que ça va demeurer peut-être un classique, mais c'est intéressant de voir un peu la lecture que le pays a fait des autres émissions. Fait qu'on écoute tout ça ensemble.
Ah oui, non, oui, non.
Fait que c'est sûr que nos amis troqueurs qui ont écouté le pays cette semaine, vous savez de quoi on parle. Mais pour les autres qui nous écoutent sur Internet et pour les auditeurs de Radio Choc, ben d'ailleurs, je vous invite à peut-être aussi écouter le pays. Là. Oui. Ce serait une bonne affaire, une bonne habitude à prendre. Il est maintenant le mardi de 7h le 7h le soir, c'est-à-dire de 19h à 21h. Et sinon, c'est disponible aussi sur son site Internet. Donc, je vous fais écouter ça. C'est très intéressant. C'est un peu ludique. J'aime le mot ludique depuis l'année dernière. Donc, on écoute ça ensemble. On rit de moi là autour de la table. Non, mais tu sais, je me sens un peu...
Paye sur le piton.
Ouais, je paye sur le piton.
Depuis des années, le 172 offre une programmation exceptionnelle. Radio Pistache avec Jeff Pilon.
Yes. S'entends-tu pour dire que yes, c'est de la gauche?
Avec les camionneurs. Drop Stock Québec. Avec Benoît Sérien.
Salut, ici Benoît Sérien. Ça me fait plaisir de vous parler... À toutes les semaines, de patentes, de troc, qu'on s'en calisse. On a Jean-Claude au bout du fil. Ah. Salut Jean-Claude.
Salut Benoît. Cette semaine, j'ai un camionneur là, que je voulais saluer et remercier pour son excellent travail.
Jean-Claude?
Oui?
Si ça te dérange pas, on va raccrocher tout de suite.
Un choc d'idées avec Radio Choc Live.
Moi, je pense qu'il y a un peu de temps.
Et une revue de l'actualité avec Dom Dom.
C'est fini. Je l'ai pas coupé à bonne place. Tantôt, j'ai regardé le sweep, puis je l'ai coupé parce que j'ai vu un blank. C'est vrai, je me souvenais pas pour Doom, il avait fait un blank.
C'est très bon.
Vous avez compris le principe. Ah, je te dis. Non, mais c'est le fun pareil. Merci au P qui a fait ça. C'est le fun. Puis c'est le fun qu'il soit de retour parce que c'est quelqu'un qui
ça met de la couleur sur XM.
Ouais, ça met de la couleur. Fait qu'on a besoin d'un P, on a besoin d'un Radio Choc, on a besoin d'un Truck Stop, on a besoin d'un Doom chaque matin. On a besoin de notre somnifère. Non, mais tu sais, il y en a qui se couchent le matin. Hein, tu sais, il y en a qui sont sur un chiffre de nuit. Peut-être que pour eux autres, c'est le temps de s'endormir.
Là, je ne lève pas aussi.
Je te dis.
Tu peux prendre un micro, Seb, en passant.
Bon, fait que non, mais c'était notre petite parenthèse. Fait que tout ça pour dire qu'on a beaucoup de plaisir à animer ça sur Radio Choc.
Il a fait une bonne traduction de Thunderstruck aussi.
Oui.
En français, très bon.
Oui, on va la mettre. Ouais. On va la mettre un T4. Je voulais, tu sais, j'ai pas eu le temps d'y parler puis demander la permission parce que je trouvais ça bien. Puis il a aussi fait son sac de chips là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra vous faire écouter. Vraiment quelqu'un qui est plein de talent. On le salue d'ailleurs. Sur ça, on va faire une première pause publicitaire, puis on va commencer avec notre premier sujet, parce que là, on a deux sujets importants, mais le premier, le gros, puis on en avait parlé l'année dernière, tout ce qui est des cours de... Ben, anciennement, on disait les cours de religion et de morale, mais maintenant, c'est, mon DOF éthique et religion. Donc, un nouveau programme qui a vu le jour, tu disais tantôt, c'est quoi, en 2008?
En 2008, ouais.
En 2008, ça a été instauré. C'est drôle, ça m'a surpris parce que c'était en même temps à peu près que les séances sur les accommodements raisonnables. Donc, je suis un peu surpris qu'on ait implanté un nouveau programme, sachant qu'on avait une commission quand même qui allait être exécutée. Fait qu'on se retrouve de l'autre côté de la pause. Vous écoutez Radio Choc sur les ondes de XM72.
Radio Shock and Friends.
C'est quoi, non, l'affaire?
Ben, c'est des animateurs qui parlent avec des amis. Ben, deux gars qui parlent avec des chums. Bon, ben là, si tu saisis pas, écoute donc le show. Ça va être bien plus simple.
Radio Shock and Friends.
Pour une maison de qualité, faites affaire avec Construction McKinley. Que ce soit pour une maison standard ou de prestige, venez rencontrer notre équipe jeune et dynamique. Gagnante de plusieurs prix Nobilis, nos maisons sont toutes couvertes par la garantie de la PCHQ et nous sommes certifiés Novoclimat Select. Plan sur mesure, projet clé en main ou à travaux partagés, nous sommes là pour vous supporter. Informez-vous auprès de nos représentants, nous avons plusieurs développements dans le Québec métro. Consultez notre site internet au www.constructionmckinley.com ou composez le 418-844-3334 pour plus d'informations.
Radio Shock and Friends. De retour après la pause dans 3, 4, 5 minutes.
Qu'est-ce que t'as dit?
Ben, le temps que les animateurs aillent à la toilette, se lavent les mains et prennent une petite gorgée. Ben quoi, comme toi, ils ont bien le droit de se reposer un peu.
Radio Shock and Friends.
Boucle ta ceinture. Tu te prépares à traverser une zone de turbulence avec toute la gang de Radio Choc.
Bon, on est de retour à Radio Choc. Comme on l'a mentionné tantôt, on a un sujet intéressant, épineux, je dirais. Puis on voulait en discuter, puis on voulait, comme j'ai dit avant que vous arriviez, Monsieur Duberger, vous profiter de votre présence parce que l'autre fois, quand vous êtes venu nous parler du Climate Gate, on avait eu des discussions hors d'onde, puis on avait effleuré un peu le sujet, puis c'est un addon parce que vous êtes là ce soir, puis on s'est dit ben pourquoi pas élargir un peu le spectre parce que c'est le fun des fois d'être étiqueté à quelque chose, mais c'est le fun aussi d'élargir le spectre puis de faire découvrir des choses, puis c'est un sujet qui mérite réflexion, puis je pense que plus qu'on est autour de la table à en discuter, plus qu'on pourrait peut-être amener un point de vue différent ou amener des divergences d'opinion qui pourraient, sans dire faire avancer le débat, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat, mais on se pose une question parce que au cours des derniers jours, on parle beaucoup bon de ce qui arrive en Haïti, mais avant ça aussi, il y a eu un fort dossier sur l'immigration, sur les assistés sociaux, puis c'est quelque chose qui plane au Québec depuis fort longtemps, je dirais depuis aussi la commission Bouchard-Taylor. On en parle beaucoup, l'immigration, on a parlé beaucoup de religion, puis c'est quand même intéressant de voir que, bon, il y a quand même des décisions qui se sont prises auprès du gouvernement pour instaurer des programmes, parce que on sait que, bon, dans l'évolution du Québec, on a connu évidemment toute l'époque où le clergé était très présent aussi au niveau du système d'éducation. Puis c'est sûr, je pense que nos racines aussi, on peut pas les renier, puis on peut pas renier le fait que oui, il y avait une forte présence religieuse au sein des écoles, puis que oui, l'enseignement catholique était fortement imbriqué dans notre système d'éducation. Puis je peux comprendre certaines personnes qui voulaient, bon, enlever un peu ce volet-là catholique, mais on se rend compte qu'on a introduit quand même un programme qui est quand même assez audacieux dans son approche. Ouais. On parle, bon, du cours d'éthique et religion. Tout d'abord, on va vous souhaiter la bienvenue, parce que la dernière fois, j'avais sauté rapidement comme ça dans le sujet. Ça va bien, premièrement, Monsieur Duberger?
Ça va très bien. Je me suis très bien remis de ma dernière
présence.
Apparition ici, oui.
Oui, qui était fort appréciée d'ailleurs. Donc, vous avez suscité l'intérêt des gens qui nous écoutent. Et ça l'a permis, je dirais, à certains auditeurs d'avoir une meilleure compréhension par rapport au sujet qu'on avait, qui était le Climate Gate. Et d'ailleurs, les gens ont apprécié, on a eu beaucoup de courriels, puis on a eu des bons commentaires, puis des sites Internet qui nous ont référés, qui ont mis les extraits disponibles. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande, hein, je pense, pour ce genre de sujet-là. Puis comme on va voir tout à l'heure, quand on va parler d'Haïti, les gens en redemandent parce que sont toujours, on dirait, au Québec, sur leur appétit. Puis le sujet dont on va parler, là, on va commencer ce soir par parler de l'éthique et des cours de religieux, mais on se rend compte que il y a des décisions qui se prennent, il y a des discours qui sont avancés, mais les gens veulent en savoir davantage sur justement les choix de société, sur tout ce qui se passe au sein de notre collectivité. Puis assez souvent, on se rend compte qu'il y a peu d'émissions, il y a peu de tribunes, puis il y a peu de gens aussi qui sont enclins à parler ouvertement de certains sujets. Puis c'est le fun parce que moi, je trouve que c'est une de vos qualités, c'est de votre, dans vos qualités, vous avez une excellente qualité qui est celle de l'ouverture. Peu importe là vos allégeances politiques ou vos réflexions, je pense que vous semblez être quelqu'un de très ouvert. Et c'est à votre, je pense, votre avantage de le faire, parce qu'au Québec, on se rend compte que quand on lit des choses comme on va discuter ce soir, il y a des gens qui ont des idées précises hein, sur le Québec et ce que devrait être le Québec de demain. Donc, je pense que et les cours d'éthique et religion, c'est un peu le principe, puis surtout votre apport, on la voulait ce soir parce que vous avez travaillé longtemps dans le domaine de l'éducation. C'est combien d'années au juste que vous avez fait?
J'ai été 33 ans professeur à l'université. J'ai été un des professeurs fondateurs de cette université du Québec à Chicoutimi.
À Chicoutimi.
Alors, c'est vous dire, et hier, j'ai reçu un téléphone d'un de mes anciens élèves. Moi, j'ai 64 ans, lui, il en a 67. Alors, c'est vous dire, j'ai commencé tôt.
Ah oui?
J'avais des élèves, j'avais 22 ans, puis ils avaient 24, 25 ans.
Donc, vous avez commencé à enseigner en quelle année pour le pour
en
le
67. Dès que j'ai terminé mon bac à l'Université Laval, on demandait un prof de géologie à Chicoutimi. Okay. Pour ce qui s'appelait à l'époque l'école de génie, qui était l'embryon de l'Université du Québec. Et j'ai été le volontaire.
Oui. Pour rappeler aux gens, c'est ça, vous êtes ingénieur de formation.
Oui, ingénieur géologue.
Géologue.
Géophysicien de déformation.
De déformation.
Sismologue de encore plus déformation.
Mais bref, vous, justement, quand vous avez été exposé en 67 au système, bon, j'imagine qu'il y avait quand même cette présence-là, comme on dit, là, de l'aspect religieux ou catholique de la chose.
Si vous aviez vécu les années que j'ai vécues à l'Université Laval, dans les années 60, mon directeur de département, d'abord, c'était un prêtre, l'abbé Laverdière. Il était énorme, il pesait, je pense, au-dessus de 300 livres. Et Dieu ait son âme aujourd'hui, mais il avait la passion de son métier, mais c'était un religieux. J'allais parfois servir sa messe.
Ah oui?
Et il était mon directeur de conscience. Donc, c'était mon professeur, puis il connaissait tous mes péchés en même temps. Alors, aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer une situation sans... Imaginez! On rentrait
surtout pas avec les syndicats, y'a-tu pensé?
Je me rappelle, on rentrait du congé des fêtes. On était en deuxième, troisième année de génie géologique. Et puis, on était juste sept étudiants en génie géologique à Laval. La Belleverdière nous connaissait tous, connaissait nos dossiers, même parfois nos parents. Moi, mon père était journaliste, donc il était assez connu ici à Québec. Alors, il nous pointait du doigt et dit « Toi, tu as une mauvaise note en mathématiques. Je vais le dire à ton père. Toi, tu as une mauvaise note en résistance des matériaux. On va te couper ta bourse si tu continues comme ça. » Puis là, il nous disait « Mettez ça sur le compte de la Bonne Sainte Vierge. Ça devrait bien aller. Mettez-vous à genoux, je vais vous bénir. » Fait qu'on s'agenouillait et la Belleverdière nous bénissait. Puis on était bénis pour l'année. Alors, ça marchait comme ça. C'était l'Université Laval des années 60. Monseigneur Vachon et tout ça.
Hey, j'ai quelqu'un sur la première ligne. Je veux juste savoir ce qu'il voudrait nous dire. Parce qu'on me fait signe qu'il faut le prendre. Oui, allô, à qui on parle?
Allô, est-ce que c'est à moi?
Oui, salut. Ah, c'est Daniel.
Bonjour.
Ah, ben, on va.
J'ai eu de confusion de ligne. Je me demandais si on me parlait à moi ou pas.
Ah, non, il n'y a pas de problème. On parle à toi. Daniel, qui est quelqu'un de la grande famille Radio-Choc. Donc, salut, Daniel.
Salut, Daniel.
Heureux de te parler.
Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Oui, c'est ça, Daniel, qui était supposé d'être là pour la première émission, qui est un friend, comme on dit en anglais, mais qui est quelqu'un qui est dans l'entourage. Puis on voulait souhaiter bienvenue en cette nouvelle année 2010, parce que Daniel, cette année, va avoir un apport quand même intéressant sur l'émission. On a beaucoup de sujets qui bouillonnent. Puis Daniel, je le compare un peu à M. Duberger. Hein. C'est quelqu'un qui brosse assez large. C'est un gars qui peut avoir des spécialités distinctes, mais qui est capable d'aller dans un spectre diversifié. Puis Daniel nous apporte toujours aussi je dirais sa réflexion, toujours avec un, sans dire de l'humour, mais toujours avec des réflexions qui...
Ouais,
c'est ça qui sont intéressantes. Ça va bien, mon Daniel?
Merci, ça va bien, vous autres?
T'es en forme?
Oui, certain.
Comment ça va dans la métropole?
Comment
ça va dans la métropole?
Il n'y a pas grand neige, ça bouge pas, j'entends pas chialer, fait que c'est ça. Ça a l'air d'être bon signe. Là.
Oui, là, tout le monde écoute le
spectacle. Il n'y a pas de police ou de pompiers dans le bloc en face de chez nous qui arrivent trois fois par semaine. Ça doit être une bonne journée.
OK. Puis là, j'imagine que tout le monde sont connectés sur le spécial Haïti, donc la ville est morte.
Oui, bien, moi, de mon bord, j'ai plus un intérêt particulier parce que j'ai un ami qui est là-bas. Là. Mais, puis d'ailleurs, M. Duberger, tantôt, quand on va parler de ça, vous allez voir mon style d'approche. Moi, je vais avoir des questions bien spécifiques pour vous, vous allez voir.
Parce que Daniel, effectivement, il fouille énormément sur le web, puis en plus, il se documente. C'est quelqu'un qui je veux pas dire qu'il se promène, mais qui a presque tout le temps le code civil. Le code civil sous le bras. Donc, c'est quelqu'un qui a ses documents de référence toujours à portée de main. C'est quelqu'un qui se documente bien. Donc, ça va être intéressant. Puis, Daniel va joindre avec nous, justement, pour vous poser des questions avec nous en ligne. Donc, tu restes là, Daniel? OK, fait que je vais baisser un petit peu le slide. Fait qu'on on va continuer avec un peu un historique parce que je trouve intéressant le parallèle, le fait que vous avez débuté en 67 dans un domaine où c'est ça, la religion était fort présente. Et comment vous avez vécu un peu justement cette immersion là au sein des programmes, parce que j'imagine que ça devait être toujours présent. Oui. Vous parliez tantôt de la communion, puis...
Dans certains cours à l'Université Laval, dans les années 60, même en sciences, on faisait la prière avant le cours.
Oui, c'est ça, c'est des choses qui étaient coutumes. C'est une tradition.
Moi, personnellement, ça m'a jamais gêné.
Ah non?
Non. Ça va vous paraître bizarre, compte tenu de ce que peut-être je vais vous dire tout à l'heure sur ce nouveau cours. J'ai jamais souffert de la présence religieuse dans ma vie, moi. Mais je dis pas que tous les Québécois ont eu la même attitude que moi. Je me mets à la place des mères de famille qu'on poussait à devenir enceintes régulièrement.
Oui, c'est ça. Eux autres, il n'y avait pas une image positive.
Je peux pas me mettre à leur place. Elles ont dû voir ça de façon très différente. Mais moi,
un excellent point, ça. Ma grand-mère a eu 21 enfants à cause du curé du village, justement.
Oui,
à cause de lui, mais parce qu'il l'a poussé.
Fallait procréer pour... on va-tu se faire baptiser cette année, disait le curé.
Sous menace d'excommunication.
Je sais pas si ça allait jusque-là, mais il y avait des pressions qui étaient très fortes. Quand le curé faisait sa visite paroissiale, je me rappelle, il disait souvent aux femmes, « Bé, madame, quand vas-tu faire encore baptiser cette année? » C'est pas lui qui les portait, les bébés. C'est pas lui qui se levait la nuit pour les changer les couches, puis les biberons, puis tout ça. Ils ont jamais connu ça, les curés.
Mais c'est pas l'aspect hommerie, justement, dans la religion qui fait en sorte que, oui, c'est des hommes qui mettaient de la pression là, sur ces femmes-là. C'était pas nécessairement... La religion en soi, là, je veux dire, la Bible ou quoi que ce soit qui commandait ça, je veux dire, oui, c'était On pouvait interpréter les livres comme ça, mais je veux dire, c'était l'homme aussi qui était le curé, qui était le prêtre qui le faisait.
C'était mis à leurs mains aussi. Oui, je veux dire, c'était un bel instrument qu'on pouvait malgré tout utiliser un peu à ses avantages aussi, peut-être, je vous dirais.
Et si un clergé habile s'associait des politiques habiles, on pouvait contrôler la population.
Effectivement, oui.
La religion est un instrument de contrôle extrêmement efficace. Puis on le voit dans certains pays, ça marche encore.
Mais là, revenons à vos prières. Donc, vous faisiez la prière à chaque cours, mais...
Certains cours. Et dans certains cours. Il y avait même à l'Université Laval, dans les années 60, quand moi j'y ai étudié au bac, un cours de religion, mais qui n'était pas obligatoire en sciences. Je le prenais par intérêt.
Et comment la communauté scientifique, parce que assez souvent, on sait que... Bon, je ne veux pas dire que c'est elle qui est la plus...
athée?
Ben, je ne veux pas le dire, mais assez souvent, les scientifiques ont un profil.
Oui.
On a la preuve vivante, Sébastien, qui est ingénieur de formation.
Oui.
C'est pas quelqu'un qui a la foi la plus forte, je dirais, en la religion comme on la connaît. Donc, et à ce moment-là, comment on vit à travers une communauté? Vous dites, vous êtes en sciences, il y a des cours de religion.
Mais vous voyez, moi, j'étais un peu spécial. J'ai été élevé dans un milieu catholique. Mon père était journaliste à l'Action catholique.
Ah, oui. Oh.
Donc, était sous la coupe de Duplessis. Oui. Moi, je me rappelle d'avoir vu mon père écrire des beaux articles en première page dans des campagnes électorales de Duplessis. Puis mon père descendait Duplessis descendait de sa tribune quand il avait fini son discours, donnait la main à mon père, puis il y avait un 5$ dans la main. Alors vous imaginez la couleur de l'article qu'il y avait dans la première page de l'Action catholique le lendemain matin. Alors, mon père en a eu plusieurs des 5$ comme ça. Ouais. Il a même osé accompagner Duplessis dans certaines de ses campagnes électorales, toutes dépenses payées par l'Union nationale.
Okay.
Il n'y a pas un journaliste qui oserait faire des choses pareilles aujourd'hui, mais à l'époque, on se reporte aux années 50, c'était monnaie courante.
OK. Puis, si on se ramène à cette époque, donc, la religion avait quand même son mot à dire, hein, parce qu'elle était complice avec les décisions de l'État. C'était, je pense, peut-être un rôle partagé qu'on avait. On s'occupait de l'éducation du côté religieux, puis le gouvernement, lui, qui implantait ses programmes, et j'imagine...
Il y a un parallèle quand même qu'il faut établir entre la façon dont la laïcité s'est installée en Europe, en France en particulier, et au Québec. C'est très différent. Les Français ont eu la loi Combes en 1905. Je ne sais pas s'il y en a ici. La loi Combes dépossédait le clergé de tous ses biens. Collège, couvent,
en 1905.
Monastère, église, cathédrale. L'État en devenait propriétaire. C'était assez brutal.
Ouais.
Le résultat de ça, c'est qu'il y a plusieurs de ces religieux, religieuses qui sont venus se réfugier au Québec, ont fondé leurs propres congrégations, leurs propres écoles, leurs propres hôpitaux. Et c'est grâce à ces gens-là que des gens comme moi ont été instruits. Grâce aux sœurs, aux frères, aux religieux, que la France a mis à la porte. Chez nous, ça s'est appelé la Révolution tranquille. On a mis le clergé lentement, doucement à la porte. En France, on l'a fait de façon très brutale.
Drastique.
Et ça a eu du bien pour nous. Parce que dans les années 40-50, il n'y avait pas grand enseignant, il n'y avait pas grand savant pour enseigner dans les écoles. Il n'y avait pas beaucoup de religieuses pour s'occuper des malades. Donc, c'est grâce à ces religieuses-là qu'on en a profité.
Effectivement, et c'est un peu le point, c'est de dire pourquoi aujourd'hui on en est rendu à mettre des cours d'éthique et religion au pluriel, parce que ce n'est plus que des cours de... Avant, moi je me souviens, les cours de religion, c'était la religion catholique. Là,
on apprenait l'histoire, on apprenait...
Oui, puis je veux dire, on ne regardait pas d'autres religions.
Moi, je pense qu'on a... Je me trompe peut-être, mais je pense qu'on n'a pas fini encore de régler nos comptes avec l'Église catholique. Et une des réponses à ça, ça a été la commission Bouchard-Taylor. Bouchard, que j'ai bien connu parce que c'est un collègue à moi, il est encore professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je ne partage pas son point de vue sur les opinions qu'il a émises au moment de sa commission. Je partage le point de vue de certains des intervenants. Il a fait le tour de la province, il a reçu des gens... Il a sondé le pouls de la population, mais il ne semble pas en avoir vraiment tenu compte dans ses conclusions.
Vous avez pris votre retraite en quelle année, M. Dubois?
Moi, ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans. Vous étiez quand même, j'imagine, à quelque part un peu au courant de ces réformes-là quand même, sans être actif?
Disons que quand j'ai pris ma retraite de l'université, je ne voulais pas rester à rien faire. J'ai fait de la consultation pendant un certain temps dans mon domaine, mais je me suis impliqué socialement dans mon milieu. Je suis devenu président de la Société Saint-Vincent-de-Paul. J'ai fait de l'écoute à telle aide au Centre prévention du suicide. Ça m'a amené, du coup, sur un volet humain que j'avais jamais cultivé dans ma vie parce que j'avais pas assez le temps. J'étais occupé par mon enseignement, ma recherche et l'encadrement de mes étudiants. De sorte que ça m'a fait découvrir des choses. J'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans beaucoup de pays arabes musulmans. Je suis allé en Iran, en Syrie, au Liban, Jordanie, au Yémen, Libye deux fois. Donc, je connais un peu, je ne connaissais pas cette religion, l'islam, avant. Ça m'y a éveillé. J'ai établi des comparaisons avec ce que j'avais vécu dans les années 50, puis il y avait souvent des comparaisons assez surprenantes.
Ah oui, tant que ça?
Ah oui, oui. Quand on, vous seriez surpris si je vous disais qu'il y a un site Internet que vos auditeurs pourront consulter, qui existe encore, qui s'appelle islamophile.org ou .fr, je ne sais pas exactement la terminaison. Là. C'est un site français sur lequel les nouvelles converties musulmanes peuvent poser des questions à des imams. Et il y a des questions de l'ordre qui sont assez gênantes. La jeune fille de 18 ans qui vient de se convertir, une Française, à l'islam, demande « Y a-t-il moyen de savoir par la couleur du sang de ses règles menstruelles si elle est pure ou impure pour pouvoir prier ou si elle ne peut pas prier. » Et il y a M. Youssouf Untel, docteur, un imam, qui lui répond, « Ma chère fille, vu si c'est foncé, vous pouvez pas, vous êtes impure, vous pouvez pas prier.
»
C'est en 2010, ça, c'est à Paris.
Oui.
Bon, ça rappelle des comportements, des règles qu'on avait dans l'Église catholique dans les années 40-50.
Oui, mais tout ça dit, je veux dire, tantôt vous avez parlé de la loi qui a été mise en place en France en 1905.
La loi Combes.
Et on voit qu'aujourd'hui aussi, la France revient aussi à une ligne directrice beaucoup plus rigide. Hein. Dernièrement, ils ont expatrié des gens, justement, qui avaient des allégeances, soit politiques ou religieuses, des fois très fortes envers quelque chose qui n'était pas nécessairement standard au point de vue de leurs critères.
Sont moins ouverts.
Oui, ben, sont pas moins ouverts, mais je veux dire, sont moins tolérants.
Oui, c'est ça.
Je ne suis pas sûr de ça. S'ils ont mis des musulmans dehors, c'est qu'ils avaient des raisons politiques de le faire.
Oui, il y avait une raison politique.
Ils craignaient le terrorisme. Mais je ne suis pas d'accord avec leur façon d'interdire le voile, et pas seulement le voile, mais tous les objets religieux ostentatoires dans les écoles. Ils n'ont pas eu les couilles d'interdire seulement le voile. Et là, je pense que je dois m'expliquer. Moi, un crucifix dans une chambre d'hôpital, ça ne m'offense pas. Mais une femme qui veut s'adresser à moi, ici à Québec, qui porte le hijab, c'est-à-dire le foulard islamique sur sa tête, si elle veut communiquer avec moi, elle devra enlever cet objet-là sur sa tête, et je vais lui expliquer poliment pourquoi et en quoi elle m'offense. Et ça m'est arrivé à Chicoutimi. J'ai déjà refusé de parler à une femme musulmane qui était voilée.
C'est gros ce que vous dites là, quand même.
Je lui ai dit pourquoi.
Une étudiante ou...
Non.
Non, okay.
Non. Je ne peux pas donner le contexte parce que je ne veux pas que les gens me jugent, mais c'était une femme musulmane, elle avait été mariée, bon, elle venait d'Égypte. J'ai refusé de lui parler, mais j'ai pu parler à son mari. Je lui ai dit pourquoi. J'ai dit, « Madame, vous me heurtez parce qu'avec ce voile, vous me dites deux choses. D'abord, vous me dites, je suis soumise à l'homme. Et deuxièmement, vous me dites, toi, tu es un homme qui n'est pas mon mari ni un de mes parents proches et je dois couvrir mes cheveux qui sont un attribut sexuel secondaire pour ne pas exciter ta concupiscence. » Et c'est ça l'essentiel du foulard islamique. Quand une femme, ici à Québec ou à Montréal, porte ça sur sa tête, c'est ces deux choses-là qu'elle vous dit. C'est pas « je suis musulmane » qu'elle vous dit. Elle vous dit ces deux choses-là. Le foulard islamique n'est pas un symbole religieux. C'est un message que certaines femmes osent vous lancer comme ça. Et vous êtes libre de l'accepter ou de refuser ce message-là. Moi, je le refuse.
Mais vous comprenez, parce que tout à l'heure, vous parliez de la prière, tout ça. Je veux dire, à une époque, c'était facile, ou plus facile peut-être, d'imposer ces choses-là puis de les refuser. Mais aujourd'hui, avec nos gouvernements qui mettent en place des programmes qui se veulent des programmes d'ouverture sur le monde et ainsi de suite, alors on imbrique aussi les droits et libertés. Et là, on est pris dans un cercle vicieux. Et ce que vous affirmez, c'est de plus en plus difficile de le faire. Même élection le bureau des élections veut même presque plus s'y opposer.
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas eu les couilles de refuser de dire que les religions ne sont pas à mettre toutes sur le même pied.
OK.
Bon, c'est pas vrai que l'extrémisme catholique est aussi dangereux que l'extrémisme musulman. C'est faux, ça. Tout le monde le sait. J'ai fréquenté assez d'aéroports pour savoir que quand on vous fouille puis que ça prend une demi-heure, c'est pas parce qu'on craint qu'un catholique aille poser une bombe dans l'avion ou cracher un Boeing 747 sur la Mecque qu'on fait ça. C'est parce qu'on craint du terrorisme qui se fait au nom d'une religion qui commence par un « i » et qui finit par un « islam ». Et il va falloir en arriver à ouvrir des débats là-dessus. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans, on a attrapé une quinzaine de jeunes terroristes à Toronto. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé avec ces jeunes-là? On n'en entend plus parler. Mais d'où viennent ces jeunes? D'Arabie Saoudite? Du Yémen? De Libye? Pas du tout. Toronto?
Oui.
Comment ils en sont venus à ça? Je vous donne un scénario classique qui s'est produit en Europe, qui se produit encore en Europe, qui risque de se propager ici. Un groupe de musulmans dans une ville comme Bruxelles ou Paris ou Lyon demande une mosquée. Ils sont assez nombreux. Le maire de la ville, pour être politiquement correct, leur offre le terrain gratos. Sauf que l'argent pour construire la dite mosquée ne vient pas du groupe de musulmans locaux. Ça vient d'Arabie Saoudite, des Émirats arabes, de la Syrie, de la Libye, du Yémen. Et qu'est-ce qu'on installe dans la mosquée? On installe un imam qui tient à tous les vendredis, qui est l'équivalent de leur dimanche, des discours haineux contre l'Occident et contre les États-Unis en particulier. Qu'est-ce que vous pensez que ça donne chez les jeunes? Des jeunes qui n'ont pas de job, les imams leur offrent de les endoctriner, de même de les envoyer soit au Pakistan, en Afghanistan, pour devenir des anti-américains.
Monsieur Duberger,
oui?
Si vous me permettez, justement, par rapport à ça, moi, dans mon ancien travail, j'ai eu à m'occuper d'une version du Coran à être distribuée pour les usagers de nos services. Moi, je l'avais déjà lu au complet dans mon passé, le Coran, parce que je voulais m'informer, j'étais curieux, donc je l'ai fait. Mais en faisant ma comparaison, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de différences entre ce que je connaissais d'avant et ce que j'avais entre les mains. Puis au fil de mes recherches, j'ai découvert que la version du Coran qu'on avait, qui avait été fournie au gouvernement de, je ne sais pas de quel autre pays, la version en question était une version d'un Coran islamiste, mais qui était extrémiste. Puis cette version-là, c'est elle qui est fournie par l'Arabie Saoudite dans tous les événements, dans tous les établissements qu'elle commandite, finance, etc. Ça, c'est la condition. Si les mosquées aux États-Unis demandent, ont besoin de financement et qu'ils font appel à l'Arabie Saoudite, la raison pour laquelle ils vont obtenir ce financement-là, c'est s'ils font la promotion du Coran que eux fournissent. Et dans la communauté islamique, il y a une guerre entre ces gens-là parce que ceux qui font la promotion de du vrai Coran véritable et de ce nouveau-là qui a été modifié. Dans lequel, d'ailleurs, dans le véritable, c'est mentionné qu'on ne peut pas faire de modification à aucun préfet, tu sais.
Hey, Daniel.
Et c'est cette version-là qui est envoyée et financée. Fait que là, on a une guerre dans laquelle, des passages dans laquelle, moi, j'ai vu, là, textuellement, c'est spécifié que tu peux tuer les Juifs, tu peux pouvoir tuer les chrétiens, et etc. C'est marqué tel quel, noir sur blanc. Contrairement à l'ancien Coran dans lequel ce n'était pas indiqué.
Ça bon, fait peur.
Daniel, vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas qu'il existait des versions intégristes du Coran, puis des versions édulcorées. Moi, j'ai devant moi, là, j'ai la sourate numéro 4, verset 34. Dites la sourate des femmes. La connaissez-vous, celle-là?
Non.
Bon, je vous la lis.
Certainement, oui.
Bon. Intégralement, je l'ai sur plusieurs sites Internet, on peut le retrouver. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Bon, j'ai déjà rencontré, quand j'étais à Chicoutimi, j'allais faire des conférences dans les écoles sur l'islam parce que les profs de morale étaient mal à l'aise avec cette religion-là. Je faisais d'abord une première présentation sur un pays que je connais un peu, l'Iran, et ensuite sur le Yémen. Ça intéressait beaucoup les jeunes. Et tout à coup, une jeune étudiante se lève et me dit, j'ai une copine qui sort avec un copain algérien, puis elle vient de se convertir à l'islam, puis elle me dit que ce que vous dites là, c'est une question d'interprétation. Alors moi, je lui dis, dans le Coran 2010, c'est encore marqué, frappez-les. Est-ce qu'il y a une interprétation 2010 qui est offrez-lui des fleurs ou quelque chose comme ça?
Ça, c'est clair, ce qu'ils disent.
Est-ce que frappez-les, ça existe encore dans le Coran que les millions de musulmans lisent régulièrement? Si ça existe encore, pourquoi les bons musulmans n'arrachent pas cette page de la sourate numéro 4, verset 34, qui ne correspond pas du tout à nos valeurs civilisées du monde occidental? Quand des musulmans arrivent ici, à mon avis, ils doivent accepter les valeurs de la société dans laquelle ils sont plongés et dans laquelle ils veulent s'intégrer. Sinon, ça ne marchera pas.
Exact. J'ai un auditeur en ligne qui voudrait peut-être ajouter quelque chose. Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, salut.
Oui, j'aurais une question, moi. C'est que dans les écoles, on nous a demandé d'enlever nos symboles religieux, les croix et puis ces choses-là. Mais je trouve un petit peu anormal qu'on nous demande d'enlever ça, mais que d'une autre façon, on accepte maintenant que les personnes amènent leur kirpan à l'école, qui est des symboles religieux puis tout. Ils nous font enlever les nôtres, mais eux autres apportent les siens. Est-ce qu'ils veulent nous assimiler ou c'est quoi leur but?
Bon, moi, le kirpan, ça me dérange pas trop. C'est pas un symbole vraiment de violence. C'est un symbole de masculinité. Vous savez, j'ai voyagé au Yémen. Savez-vous, je pense qu'il y a 15 millions de personnes au Yémen. Savez-vous combien il y a d'armes à feu au Yémen? 60 millions. Ça fait 4 armes à feu par personne, y compris femmes et enfants. Et il n'y a pas plus de meurtres et de suicides qu'il y en a ici. Sauf que l'arme à feu, là-bas, c'est perçu comme un symbole de puissance, de masculinité. D'ailleurs, tous les Yéménites portent à la ceinture, j'en ai 2 ou 3 chez moi, ce qu'on appelle la jambia, c'est un poignard arabe à lame recourbée.
Je n'ai rien contre le symbole, c'est juste qu'ils nous demandent, nous, d'enlever nos symboles dans les écoles.
Vous avez tout à fait raison.
Et permettre les autres, après ça, d'en apporter et de les intégrer à nos écoles.
Vous avez raison, ça, c'est la sortie des crucifix des écoles, c'est juste la vengeance de gens qui en ont contre, qui n'ont pas encore réglé. Ils mangent encore du curé. Ils devraient plutôt bouffer de l'imam aujourd'hui, je pense, que bouffer du curé. Il y en a tellement plus de curés, ils sont tellement peu menaçants, à part quelques pédophiles, là. je vois pas en quoi la religion catholique puisse être aujourd'hui menaçante pour une société.
Mais c'était très bon. Hey, merci de ton point. On va continuer là-dessus, OK?
Merci, bonjour.
Merci, bye.
Ce qui est drôle avec le kirpan, c'est que dans le jugement que finalement a permis au petit gars de la salle de le porter, ça disait que s'il allait en cour, dans un palais de justice, il avait pas le droit de le porter. Ouais. Donc, c'est pas une arme dans une école, mais ça en devient une dans un palais de justice. Donc, c'est spécial.
J'ai vu des statistiques, moi, dans l'année qui a suivi la nouvelle loi en France d'interdiction de symboles religieux dans les cours de récréation. Vous savez, il y a eu, je pense, plusieurs centaines de plaintes qui concernaient toutes des voiles, mais 2 plaintes qui concernaient des croix. Pas beaucoup, hein?
Non, effectivement.
Puis moi, je voyais pas la maîtresse d'école se promener dans le cours de récréation avec une règle pour mesurer la croix que la petite fille avait dans le cou pour voir si ça d'abord le symbole religieux ostentatoire.
Mmh. Effectivement.
Mais au niveau, par contre, justement, des Québécois, je suis d'accord avec l'auditeur, c'est qu'on devient pas trop ouvert un peu, puis on se néglige, on s'oublie, parce que oui, effectivement, j'ai un peu le même feeling que l'auditeur en disant on est en train de perdre nos origines. Oui. Tu sais, quelqu'un qui arrive chez moi, mettons, c'est un exemple banal, mais quelqu'un qui vient souper chez moi puis qui veut, non, je mange pas ça, je mange ça. Tu sais, à un moment donné, quand tu vas quelque part, faut que oui, tu t'intègres, faut que tu fasses un peu partie de la game, comme on dit. Oui. Si tu viens ici puis tu veux amener ton pays au complet, ben, tu peux rester aussi là-bas où t'es. Oui. Tu sais, je trouve qu'il faut s'intégrer.
Ça s'appelle l'intégration.
Exact.
Ça s'appelle aussi le respect des autres.
C'est comme ça, je le vois.
Quand quelqu'un vient ici, il doit respecter les gens de la société dans laquelle il veut s'intégrer. Il ne doit pas l'écraser avec ses symboles. Puis je trouve que les Québécois n'ont pas montré assez de vigueur pour garder, comme vous avez raison, d'offre de dire qu'on a, on a une tradition judéo-chrétienne à laquelle on n'a pas à abandonner.
Mais on peut être perdant à long terme là-dedans, vraiment, par contre.
On peut le faire parce que s'il y a un vide religieux catholique, il y a une autre religion qui va combler ce vide-là, puis c'est déjà commencé en Europe.
Mais je trouve en plus que l'exemple que vous avez donné, là, on a les arguments. Nous, ça fait pas partie de nos valeurs, ça. Le fait que la femme puisse être frappée, puisse être carrément possédée par l'homme.
Ça, pourquoi? Ça a déjà fait partie.
Oui.
Je me rappelle de quand j'étais à l'école.
Le bon vieux temps, vous allez
dire. Non, je dirais pas ça. Mais j'étais la semaine passée au Mexique, on chantait des bonnes vieilles chansons, de la bonne chanson. Il y avait le petit avocat. Battait sa femme à coups de bâton. On chantait ça à l'école. Aujourd'hui, battait sa femme.
Je veux dire, sur le principe des valeurs, comme vous dites, on peut quand même défendre notre point. Là, je veux dire, c'est pas une question de blanc ou noir, c'est de dire, nous, nos valeurs ne permettent pas ça. Je m'excuse, mais ta religion prône des valeurs que nous, ils font pas notre bonheur. Ouais. Je m'excuse, mais ta religion, on la rejette sur ces principes-là ou ces bases-là.
Ouais, mais ça, smart, là, c'est parce que ça nous prend. Faut qu'on ait une fierté, puis qu'on impose cette fierté-là de nos racines, puis de notre culture. Puis à la place, on est plutôt genre, fais comme chez toi, assis-toi, comme Dove disait. Mais viens à la maison, fais comme chez toi. Tu veux-tu t'es jarré? Tu veux-tu mettre tes pieds sur la table?
Prends le contrôle, puis si je te nuis, ben, tu me le diras.
Il y a des choses qu'on doit avoir le courage de refuser. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'université, professeur à Chicoutimi, il y avait beaucoup d'étudiants musulmans. Bon, au début, moi, ça me gênait pas trop.
À Chicoutimi, oui?
Oui, oui, il y en avait énormément. J'avais des élèves africains, moi. Ils m'ont demandé d'avoir un local pour faire leur... un peu comme une mosquée le vendredi. Je leur ai trouvé un local. Je le ferai plus aujourd'hui. Bon. Un jour, je rentre dans la salle de bain pour me laver les mains avant dîner. Dans le lavabo à côté, il y avait un mec qui se lavait les pieds. Là, j'ai été fâché. J'ai dit, écoute, le mec, là, on a un gymnase pas loin, il y a des douches, tu veux te laver les pieds, tu vas là. Il faisait ses ablutions avant la prière. Mais c'est pas dans un lavabo d'université, dans une salle de bain qu'on fait ça. J'ai vu ça dans des restaurants en Libye, au Yémen. Ça me gêne pas, ils sont chez eux. Exact. Et quand ils sont chez moi, j'exige qu'ils se comportent de façon civilisée avec des valeurs occidentales.
Respect, mais, le respect des mœurs du local.
À ce moment-là, qu'est-ce que vous répondez justement à notre code qu'on a implanté à la fin des années 70, là, les droits et libertés, et puis, je veux dire, notre ami... Trudeau. Qui était fier quand même de dire qu'au Canada, on avait établi ce document-là qui permettait une certaine ouverture, mais une certaine protection des droits et libertés au sein d'une collectivité qui, peut-être par le passé, avait été bafouée dans ses droits. Et comme vous dites, historiquement, on a peut-être aussi été dans un mode où la femme était inférieure à l'homme. Puis on le sait, au Canada, le droit de vote chez la femme, c'est quand même pas quelque chose qui est récent.
C'est peut-être rendu trop lourd aujourd'hui, par exemple, cette charte-là aussi.
Qu'on a versé dans un excès, mais là, le pendule est en train de revenir.
De revenir.
On a vu que ça n'avait pas d'allure. Mais en Europe, c'est rendu bien plus, bien pire que chez nous. J'ai des amis à Bruxelles, moi, qui m'ont montré la dernière fois l'église de leur paroisse à Bruxelles. Ils m'ont dit, regarde, Rénal, c'est l'église où on a été baptisé qui n'est guère plus fréquentée que par une cinquantaine d'infidèles. Parce que leur quartier est envahi de musulmans.
OK.
Ils n'ont plus de contrôle. Puis il y a certaines églises qui vont être vendues pour devenir des mosquées.
Mais, je veux dire, notre sujet, puis là, on arrive à notre sujet parce que cette historique-là était importante à faire. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on a adapté notre système d'éducation justement pour introduire ces religions-là dans notre système d'éducation. Parce que moi, quand je lis... je vais lire la première phase. L'école québécoise a pour mission d'instruire, de socialiser et de qualifier. OK? C'est ce qu'ils disent. Alors, pour ce faire, elle doit notamment ouvrir les horizons et développer les talents et donner à chaque individu les outils nécessaires pour évoluer dans le monde en tant qu'adulte accompli. Et c'est là qu'on parle que, justement, pour vivre, dans un monde qui nous apparaît quand même assez diversifié, on a fait en sorte qu'on a introduit justement ce nouveau programme-là qu'on appelle éthique et religion au pluriel. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est largement souhaité par une majorité des Québécois. Et là, c'est pas ce que j'entends au fil des derniers mois. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit noir sur blanc. Hein? Donc, ça dit largement souhaité par une majorité de Québécois.
Mais personne ici a été sondé.
Même si on fait abstraction des désirs des parents ou des éducateurs, etc., je vois mal un enfant de 7, 8, 9 ans être exposé à des notions sur le bouddhisme, sur l'islam, le judaïsme, sur la chrétienté. Il est trop jeune pour ça. Je dirais, quand j'allais dans les écoles faire mes deux choses sur l'Iran puis le Yémen, la première question que je posais aux jeunes, parce que j'arrivais avec un gros sac plein de symboles islamiques, hein, des flèches que j'avais volées dans des chambres d'hôtel en Iran qui indiquaient la direction de la mer, je leur disais, c'est quoi ça? Ah, t'as pris ça sur une calandre de Mercedes, pas du tout. J'ai dit, un petit carré noir là avec deux trous, là, c'est la Kaaba, c'est la pierre noire,
oui.
C'est la Mecque, c'est le centre de l'islam. Ah, ouais. Puis là, je dis, quelle est la plus vieille religion du monde, encore pérenne, pour laquelle il y a encore des fidèles? Hein? Je suis sûr que vous ne le savez même pas vous-même.
Ça doit être une religion païenne.
Le Canadien de Montréal?
Qui existe encore. Hein? Il y en a qui disent bouddhisme. Je dis, pourquoi tu dis ça? Hein? C'est parce que mon prof qui dit ça, je regarde le prof. J'ai dit, c'est pas le bouddhisme, c'est pas l'islam. C'est le zoroastrisme. Ah,
je l'avais sur le bout de la langue.
Ou, si vous voulez, le mazdéisme. Et là, je leur montre des photos que j'ai prises à Yazd, en Iran. C'est là qu'est née la plus vieille religion du monde, peut-être en 6-7 000 avant Jésus-Christ. Je leur montre les tours du silence, des grosses tours de pierre sur lesquelles on allait porter des corps humains quand ils étaient morts, parce que, selon leur religion, le corps humain ne doit pas souiller ni la terre, ni l'eau, ni le feu. Donc, pas question d'incinérer, pas question d'enterrer, pas question d'immerger. Ils mettent le corps sur le dessus de l'immense tour, et là, les vautours décharnent le corps, et au bout de quelques jours, il ne reste que des os qui jettent dans un trou au centre de la tour. Et ce rite-là a été fait pendant des milliers d'années, jusqu'en 1976, au moment où l'ayatollah Khomeini a interdit cette pratique-là.
Ben, j'espère.
Ouais, parce que c'était insalubre, mais les zoroastriens existent toujours. Maintenant, ils ont des cimetières où ils mettent le corps à surface du sol puis ils coulent une dalle de béton par-dessus. Et après ça, je les amène au temple du feu, dans le centre de Yazd, où il y a cette flamme qui brûle depuis peut-être 3000 ans, qui s'est jamais éteinte. Puis il y a des prêtres habillés en blanc avec des gants, puis il y a un voile sur la bouche pour pas que leur haleine souille la flamme, qui apporte des bûches d'abricotiers tout le temps, pour nourrir ce feu-là. On peut voir ça derrière une vitre. C'est assez émouvant. Et sur le dessus, sur le fronton du temple, vous avez Ahura Mazda, le grand prêtre de cette religion-là, avec les trois paroles, bien penser, bien parler, bien agir. C'est la base de la religion mazdéiste, zoroastriste. Les rois mages étaient des zoroastristes. Gaspard, Melchior, Balthazar venaient probablement d'Iran. Ils ont traversé le Yémen, ils ont trouvé l'encens, la myrrhe, que moi j'ai rapporté aussi quand je suis allé au Yémen. Ils sont rentrés à Bethléem ou à Nazareth où le Christ est né avec ces cadeaux-là. C'est pas une légende, c'est des faits.
C'est des faits.
Ça vient d'Iran, la plus vieille religion du monde.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un respect à avoir quand même avec ces religions-là qui sont émanantes de tout ça. Parce que j'imagine que toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui se sont créées à partir de ça.
Absolument des racines communes entre l'islam et le christianisme. Mais Abraham, Moïse et tout
ben
ça.
Oui.
Ce sont même Jésus est considéré comme un prophète par l'islam. Il faut voir que l'islam est né au 7e siècle quand Mohammed, Mahomet, a eu cette révélation de l'archange Gabriel qui lui a dicté le Coran, la loi, les règlements. Sauf que le problème avec cette religion, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas d'autorité. N'importe qui peut dire n'importe quoi, peut proclamer n'importe quel fatwa, puis interpréter n'importe quel verset du Coran à sa façon. Tandis que dans la chrétienté, il y a au moins à Rome un pape, des évêques, des archevêques, des cardinaux qui nuancent. D'ailleurs, il y a un catéchisme. Il n'y a pas juste la Bible. La Bible, l'équivalent du Coran. Mais le catéchisme, c'est pour dire aux gens ce qu'il faut faire.
Oui, comportements...
En islam, il n'y a pas de catéchisme.
Ouais, c'est
tu fais n'importe quoi. Tu peux tuer l'infidèle.
Mais trouvez-vous, quand on voit aujourd'hui, justement, le pape, on regarde des situations comme en Afrique qui n'ont pas le droit de condom, ou ci ou ça, que c'est évolué comme religion.
Non,
moi, aujourd'hui, je regarde ça, je ne suis pas fier de ça. Là.
Non. Il n'est pas à date.
Il n'a pas fait sa mise à jour, maintenant.
On peut voir aussi le rôle de la femme. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, parce que c'est les femmes qui font marcher les églises à l'heure actuelle.
Oui, effectivement.
On dirait que ça recule, la religion. C'est pas compliqué. On dirait quasiment qu'elle recule, la religion.
Les églises sont en train de fermer.
Carrément,
la pratique religieuse forcément diminué.
Mais à l'époque, pour avoir été en Europe, on peut comprendre comment il était soumis. Quand on rentre dans une cathédrale où on a l'impression de mesurer un pouce par rapport à l'immensité de la cathédrale, quand le Seigneur te disait, si tu fais pas ça, tu vas en enfer, tu regardes ça d'en haut, tu dis, je peux bien comprendre qu'il marchait à quatre pattes parce que ça a de l'air petit là-dedans, maudit.
Et tout était construit pour, entre guillemets, terroriser le,
ben oui.
Le fidèle, l'orgue, avec des milliers de tuyaux. Puis... C'est un instrument extrêmement puissant. On se contentait pas de violon puis de piano. Il fallait un instrument fort, puissant, dominant
les
pour impressionner,
aussi, les
terroriser.
Statues, tout ça qu'on voit bien, ça fait peur.
Aussi, mais... cette imagerie d'enfer, démons.
Vu les images du purgatoire à Florence, qu'on voit le purgatoire avec les gens qui se font enfourcher dans le rectum puis dans le vagin? Ça fait dur, ça. Là,
mais
là.
Il faut dire une chose d'offre. Il faut quand même reconnaître que la chrétienté, la religion catholique en particulier, a inspiré la majorité des grands chefs-d'œuvre de l'histoire en architecture, en peinture et en musique. Ouais, on n'a qu'à penser à la messe en si de Jean-Sébastien Bach, des œuvres de Beethoven, des messes de Mozart.
Mais justement, d'où l'importance de ne pas rejeter ça et de montrer cette histoire-là et de l'enseigner dans nos systèmes d'éducation. Et c'est pour ça, quand je vois que on bafoue un peu, puis on ramène toute la religion catholique au même niveau que les autres religions qui sont pas des religions avec lesquelles on a évolué là, dans les 150, 200 ou 300 ou 400 dernières années, même je dirais depuis fort longtemps. Pourquoi on veut ramener le catholicisme à son plus petit niveau, puis on veut le traiter au même niveau que les autres religions? Pourtant, c'est nos origines. C'est... Comment on peut pas les apprendre, justement, pour peut-être mieux les comprendre et rehausser peut-être
la nôtre?
Oui,
moi, je pense que
l'améliorer.
C'est ce que je disais tantôt. On a encore un compte à régler avec l'Église, puis il n'est pas terminé.
Oui, mais là, quand est-ce
que... Qu'est-ce que vous voyez comme solution à ça, vous?
Mais...
Ça, c'est une maudite bonne question.
Je n'ai une par année, c'était ce soir.
Mais Duff, c'est un peu dans sa stratégie. On a un invité, puis il veut toujours quand même l'impliquer dans la réorientation de la société québécoise.
Je ne vous ai pas dit si j'étais pratiquant, athée. Non. D'après ce que je vous ai dit à venir jusqu'à maintenant, comment vous me catalogueriez?
Un maudit bon Jack.
Oui, mais vis-à-vis de la religion, là, je suis un athée, un agnostique ou un croyant?
Je pense que vous êtes ouvert. Je pense que vous avez voyagé beaucoup. Puis le fait d'avoir voyagé beaucoup ouvre beaucoup d'horizons. Puis on accepte certaines choses, puis d'autres qu'on n'accepte pas. Je pense qu'on devient assez large, je crois.
Ça, c'est une réponse politiquement correcte.
Moi, j'ai l'impression qu'on se rejoint par rapport à tout ça, parce que c'est j'ai la tendance à vivre et laisser vivre dans le respect mutuel.
Voilà.
Ça, c'est ma réponse à votre question.
Je suis d'accord avec ça, Daniel. Et moi, je vais vous dire qui je suis un agnostique, c'est-à-dire je suis un doutant.
Oui,
je suis un doutant, je doute qu'il y a Dieu, je ne sais pas, il y en a-tu pas, je suis un scientifique aussi, et je sais que la religion n'est pas rationnelle, ça échappe à la science.
C'est émotif aussi.
Oui, et il y a des gens qui n'ont jamais compris ça, je pense au docteur Mayou, mettons, il passe son temps à taper sa religion, il fait, comme scientifique, il fait pitié à ce point de vue-là. Il n'a pas compris encore que la religion, ça fait partie de la nature humaine. Quand on recule dans la nuit des temps, même dans les peuples les plus primitifs, on a des références à une dimension qui leur échappe, à des esprits qui contrôlent une partie de leur vie qu'eux ne comprennent pas. Il faut...
Mais l'homme
ça
moderne,
fait partie de la nature humaine.
Mais l'homme moderne, est-ce qu'il veut s'avouer encore cette partie-là un peu mystique? Est-ce qu'il est prêt ou il veut tout expliquer? Et pour lui, c'est justement...
L'homme se cherche, point. Là. C'est pas l'homme moderne, c'est l'homme se cherche.
Mais l'homme va toujours se chercher. Il y aura toujours des pratiquants, il y aura toujours des agnostiques comme moi, puis il y aura toujours des athées.
Mais Duff vous a posé une excellente question. Moi, je vais vous en poser une beaucoup plus concrète. Est-ce que vous garderiez... Non, mais...
La mienne n'était pas...
Non. Je vais pas dire plus concrète. Je m'excuse.
J'ai mal plus réfléchi.
Non. Ce que je veux dire par là...
Non, mais ça, c'est Duff, ça, c'est smart.
Non, mais... Non, plus directive liée à une action qu'on pourrait prendre immédiatement, c'est-à-dire, est-ce qu'on garde ou pas les cours de religion? Ou, tu sais, on abandonne là, carrément, puis on dit, garde, pas d'éthique, pas de religion, pas de morale, rien, on sort ça de nos écoles.
Non, moi, je pense que la vie moderne fait que les parents n'ont pas le temps, peut-être, de donner l'éducation religieuse qu'ils désiraient donner à leurs enfants. On devrait peut-être avoir la possibilité, soit à l'école, soit ailleurs, à l'église le dimanche, mais de donner aux enfants, pour les parents qui veulent élever leurs jeunes dans la religion catholique, ils devraient pouvoir le faire. Mais c'est une question de valeur personnelle.
Oui, mais est-ce qu'on a le choix au Québec? Parce qu'en lisant le programme,
on n'a pas le choix.
C'est ça, on se rend compte que c'est un programme généraliste et qu'on ne peut pas choisir un enseignement catholique ou non. Même un enseignement qui serait musulman.
T'as-tu souvent le choix au Québec?
Non, mais c'est, on ne l'a pas pour les cours de langue. Fait que j'imagine qu'on ne l'aura pas pour les cours de religion.
On ne l'a même pas en environnement. On enseigne le réchauffement climatique comme une vérité indiscutable.
Oui, oui, mais justement, en lisant ces gens-là, c'est un peu ce qui me fait sursauter, c'est qu'il y a une classe de personnes, OK, qui sont des bien-pensants de l'État, qui sont à la tête de ces programmes-là, qu'eux autres ont jugé ce qui était bon et pas bon, puis ce qui était le Nouveau-Québec, parce qu'ils parlent que c'est tout ça pour construire un Québec, un modèle d'un Québec là épanoui. Super. Mais je veux dire, ils l'ont pris où, leur modèle? Je veux dire,
c'est ça, ça vient de où,
ce modèle-là? Je veux dire, moi, je veux le voir, le livre, là, dans lequel on explique le Québec de demain. Là.
C'est une mode.
Oui, je pense que c'est la rectitude politique, c'est la pensée unique. En fait, c'est...
Mais c'est ce qu'on lit, ce qui justifie le programme, c'est ça. C'est ça qui est...
C'est l'habitude québécoise de niveler par le bas, là. On ramène tout égal, là.
Oui, tout est égal, tout se vaut. Vous avez raison, Daniel. Et ça prend du courage pour établir des non-équivalences. Pour dire, non, il y a telle chose dans telle religion qui me déplaît, puis je ne l'accepte pas, puis je ne l'accepterai jamais. Mm-hmm. Plutôt, c'est... très facile de faire, comme M. Bouchard et Taylor dit, tolérance égale pour toutes les religions. La laïcité, c'est un mot que j'aime pas. C'est un mot défaitiste. Ça veut dire que tu deviens neutre complètement.
Ça, t'oublies tes...
T'es sans saveur, insipide à ce moment-là.
Moi, j'aimerais ça qu'ils renomment le cours, puis qu'ils appellent ça à la place cours d'ouverture d'esprit.
Oui.
Je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant, il y aurait moins de conflits,
et que ça serait...
on présenterait ça d'une façon différente.
Puis qu'il invite des prêtres, des imams, des rabbins, des bouddhistes pour faire des choses comme ça, pour leur expliquer.
Ouais. Mais c'est spécial, moi ce que je comprends pas, là, puis depuis le début que ça se parle, cette affaire-là, la fin qui m'a fait le plus sursauter, là, c'est de savoir que les étudiants, ils vont avoir 10 ans de ce cours-là. 10 ans.
Ah oui, ce programme.
Qu'est-ce qu'on va leur apprendre sur 10 ans?
Vous êtes pas sérieux? On va pas leur rabâcher ça pendant 10 ans?
C'est sur 10 ans. Il y a juste une année secondaire qu'ils n'auront pas de ce cours-là.
Oui, c'est les deux cycles.
C'est la fabrication du curepin, je pense, cette année-là.
en tout cas, ma suggestion, ça serait de dire, écoutez, en tout cas, si c'est encore comme quand moi j'étais au secondaire, c'est que on avait, exemple, secondaire 1, géographie du Québec-Canada, secondaire 2, histoire Québec-Canada, après ça, secondaire 3, géographie mondiale. Secondaire 4, histoire mondiale. Pourquoi pas avoir un cinquième qui serait histoire des religions?
Oui.
Où est-ce qu'on pourrait expliquer l'origine? Qu'est-ce que c'est, en gros, chacune des religions?
Oui.
Puis il me semble qu'un an, ça serait suffisant. Donner à un âge où est-ce que les gens sont capables de comprendre. Parce que là, il y a des gens qui ont commencé à avoir le cours et ça donne bizarre parce que j'ai parlé avec mon neveu en 20 semaines, j'étais en Beauce et il m'a commencé à me parler de lui-même de ce cours-là, de ce qu'il apprenait. Et moi, je le questionnais en retour. Puis à l'âge qu'il a, qui est en secondaire 4, c'est excellent. J'ai adoré la conversation que j'ai eue avec. Là. C'était peut-être le bon âge, le bon moment. Mais j'imagine mes autres neveux, ou si un jour j'ai des enfants, puis qu'ils commencent à la première année du primaire à avoir un cours d'éthique et de culture religieuse, j'essaie de comprendre comment qu'on peut trouver de la matière pour faire 10 ans là-dessus.
Ouais.
Puis l'autre affaire qui me pose beaucoup de questions, c'est de savoir... c'est quoi l'objectif caché de ce cours-là?
Je l'ai ici.
Qu'est-ce que c'est dit?
Je l'ai ici. L'objectif...
caché?
Ben, pas caché, mais...
lui qui s'est parlé là, quand les barbus se sont rencontrés.
Oui, mais...
là. C'est quoi l'objectif?
Moi, je vais te le dire.
Parce qu'il faut se rappeler que c'était le PQ qui était au pouvoir.
Oui, mais c'est la docilité.
D'où c'est venu?
Ouais. C'est, on veut rendre les gens dociles. Parce qu'on dit l'objectif, c'est que votre enfant, OK, puisse être en mesure de réfléchir avec rigueur sur des aspects de certaines réalités sociales, dont les religions, et les sujets tels que la justice, le bonheur, les lois et les règlements. Donc, c'est ce qu'on marque là ici. Là. C'est les objectifs.
Mais
donc,
on veut le rendre docile. La justice, le bonheur, les lois et les règlements, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, l'islam.
Non, mais on a qualifié la justice au même niveau que la religion, puis le bonheur au même niveau que la religion. Mais donc, on met tout ça dans le même panier. Puis ce qu'on veut, c'est d'uniformiser le discours, puis de s'assurer que votre enfant va justement moins rétractaire par rapport à, tu sais, puis moins hostile par rapport aux autres religions. Puis c'est là que j'ai peur qu'on développe justement le côté mou qu'on a actuellement déjà au sein de notre société. Puis on se retrouve avec des jeunes qui sont brainwashés, qui sont pas capables d'affirmer leur étiquette en matière de religion.
Et qui vont tout tolérer.
Oui, effectivement.
Moi, quand j'arrive dans une classe, je faisais ça au Saguenay, quand je parlais d'islam, je disais aux jeunes, vous n'avez pas à tout tolérer. S'il y a des comportements, des gestes, des paroles qui vous heurtent, vous avez le droit et même le devoir de le dire poliment, mais pourquoi? En quoi ça vous heurte? En quoi ça choque vos valeurs? Mais là, on est en train de faire avec nos jeunes Québécois des ultra-tolérants. Tolèrent tout. C'est n'importe ça, quoi. Oui. Que ce soit d'un kirpan ou...
Ouais, non, c'est vrai.
Mmh. Ouais, ça pas juste, ça frise la bonasserie.
Ouais. Ben oui. Puis pas juste tolérant. Si on a un malaise, c'est moins fort que d'une intolérance. Si on a un malaise, oui. vis-à-vis quelque chose, je pense qu'on faut être capable de l'exprimer, mais oui. que ce soit par rapport à une religion, par rapport à plein d'autres affaires. Là.
Parce que la religion, à la base, là, ça devrait pas être fait pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça devrait pas juste être ça en religion, me semble.
Oui.
Tu sais, c'est simpliste comme philosophie,
c'est
je vous
ce
dirais.
C'est ce qu'on appelle
là.
La règle d'or. Hein?
Ben, il me semble que ça devrait être ça,
mais
je veux dire.
Vous vous rappelez des caricatures de...
De Mahomet.
Oui. Comment le bruit que ça fait. J'ai chez moi une amie en France m'a envoyé le Charlie Hebdo, je garde ça précieusement, où vous avez la première page, tu sais, vous avez le portrait de Mahomet qui dit « C'est dur d'être aimé par des cons ». Mais c'est ça, dans le fond.
Mais
ça montre, c'est un indice qui montre le degré d'intolérance de cette religion-là. Vous n'avez même pas le droit de faire un dessin de Mahomet. C'est une offense. Pourtant, il y a eu des excès pour bafouer le catholicisme beaucoup pire
ben
que
oui,
ceux-là.
Ben oui.
Connaissez-vous la revue Harakiri? Moi, je suis un amateur d'Harakiri.
Moi, j'ai entendu
parler. J'ai toute la collection chez moi des années 60, 70.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus.
Non, c'est ça.
Les meilleures années. Vous aviez Cavana là-dedans qui faisait des dessins affreux à propos de la religion catholique.
Moi, je m'en souviens d'avoir vu ça.
Il n'y a jamais eu de mouvement organisé pour combattre Harakiri. Au pire, il y a eu un prêtre qui a déchiré quelques exemplaires sur la place publique, mais il n'y a jamais eu de fatwa, de menace de mort déclenchée contre Cavana. Mais pour qui se prennent ces gens-là en islam pour dire « c'est un sacrilège d'oser caricaturer Mahomet »
Ça a été le fun de voir certaines solidarités qu'il y a eu. Hein. Ils ont dit
ouais. Attention, pas tomber.
Il y a eu une solidarité, carrément, que des journaux européens qui ont dit « oh wow, là, ça, là, c'est pas vrai. » là. Et ils ont rediffusé cette caricature-là dans plusieurs autres journaux.
Charlie
et
Hebdo.
Le Québec s'est retiré. Ils n'ont pas embarqué dans le mouvement.
Ouais. On a peur de se prononcer. On a eu la même attitude sur le Climate Gate. Rappelez-vous, au Québec, on était une des dernières sociétés à oser parler un peu de ça, tandis que tous les États-Unis, l'Angleterre, la France en parlaient. Nous, on n'en parlait pas.
Mais ça a pris du temps, ça, justement, puis il y a bien des gens qui ont été confrontés à ça dans les médias.
Ouais.
Justement, je fais une parenthèse rapide, Smart, parce que dans le podcast 43, Botrax et moi, qu'on a enregistré en fin de semaine, qui va être en ligne la semaine prochaine, j'imagine, c'est un 2h30 dédié uniquement au Climate Gate, avec toutes les informations, un paquet d'entrevues, puis un paquet d'informations qui étaient précédant la crise. Et qu'on savait que ça s'en venait, etc.
Mais tu sais, au Québec...
C'est fou, là. États-Unis, Canada, Québec.
Oui. Et tu sais, au Québec, on entend souvent dire qu'on est né pour un petit pain, qu'on va mourir pour un petit pain. C'est une philosophie qui nous suit, mais qui va toujours nous suivre. Ça, c'est décourageant, mais malheureusement, ça semble toujours être présent, que ce soit le clergé, la politique, la scie.
Les Québécois, dans leur culture, je pense qu'il y a un côté timoré, timide, un peu peureux. Juste écouter quelqu'un qui se présente dans un magasin pour échanger quelque chose. Il va utiliser le conditionnel. Ça serait pour, au lieu de s'affirmer, je veux ça, ça serait, il utilise.
Oui,
c'est coulant, il ne veut pas choquer, il ne veut pas... Mais on est comme ça au Québec. Il faudrait demander qu'on donne des coups de poing sur la table. On dit non, je veux et j'exige. Oui, c'est un exercice de diction en même temps.
Ou la même chose, on parle souvent du « oui, mais ».
Oui, mais.
Au lieu du « non ». Oui, au lieu de dire « non », on dit « oui, mais ».
Oui, mais je pense qu'il va falloir aller à la pause, d'ailleurs.
Non, dans 5 minutes. pour faire un cool-down. Call pas ça, Duff. On t'a dit « call pas les affaires dans Il comprend pas le langage des signes, notre ami Duff.
Mais vraiment, il y a des traits culturels.
Bon, c'est pas grave, on en fait des erreurs comme ça.
De société. chez les Français. Moi, j'aurais beaucoup de difficultés à vivre en France. J'adore les Français, mais je ne vivrais pas parmi eux. Ils ont un gouvernement qui est beaucoup trop interventionniste, beaucoup trop présent.
Mais on s'en vient comme eux, c'est notre modèle. Assez souvent, on entend dire, la France,
c'est malheureusement, il n'y a pas assez de liberté en France. C'est assez curieux parce que dans leur devise, liberté, égalité, s'il y a une société qui n'est pas libre, c'est bien la société française. Quand l'État décide de la couleur de vos choses, puis quand vous devez avoir deux détendeurs si vous faites de la plongée sous-marine tout seul, ça intervient pas mal profondément dans vos vies. Moi, je suis pour... J'arrive du Mexique. Bon, J'étais à San Miguel Allende. Il y a peut-être pas plus que 2-3 feux rouges dans toute la ville. Il n'y a pas de stop. Les gens arrivent au coin, ils regardent à gauche, à droite. Oh, OK, tu me laisses passer, OK, j'y vais. Il n'y a pas d'accident. Hein? Il n'y a pas de règlement. Moi, je voyageais dans la boîte du pick-up en arrière. La police me suivait. Bye-bye, tu sais. Ils m'ont pas arrêté. J'avais pas de ceinture, rien.
Non.
Je me sers de ma tête. Je suis capable de calculer.
Il faudrait pas que Jean-Marie de Coninck vous entende. Ben, pauvre monsieur.
Les Québécois adorent avoir des règlements. Puis, ils adorent avoir une autorité qui leur dit qu'est-ce qu'il faut penser. Que ce soit du climat, de la religion, n'importe quoi. Comment il faut que je pense? Pour le climat, les scientifiques, ils doivent bien le savoir. On se fie à eux autres, plutôt que d'aller sur Internet, puis se documenter, puis d'apprendre, puis de commencer à discuter, puis de partir des débats, ils préfèrent s'en remettre à une autorité qui va...
Mais pensez-vous qu'on va s'en sortir de ça?
La déresponsabilisation.
Il va falloir, mais le système d'éducation québécois n'est pas parti dans ce sens-là parce qu'il n'encourage pas l'esprit critique chez les jeunes. C'est pas avec le cours d'éthique et culture religieuse qu'on va faire ça.
Ben non.
Et c'est pas, moi j'ai lu les manuels de sciences au secondaire, je les ai lus l'été dernier, et ce que j'ai vu en environnement, ça m'a fait sursauter. On leur dit quoi penser.
C'est de l'endoctrinement qu'on fait.
On leur enseigne des doctrines,
ben oui,
plutôt que de la science.
Effectivement.
Plutôt que des faits. Moi, la science, c'est... Ça consiste à divulguer des connaissances, puis à partir de ces connaissances-là, l'individu se fait sa propre idée.
Effectivement.
Il doit décider s'il fait tourner son auto à 3 minutes ou 10 minutes le matin quand il fait 30 en bas de zéro. C'est lui qui décide ça. Parce qu'il connaît les conséquences. Oui. Ils sont pas graves.
Mais hein? C'est vrai que tout ce que vous dites, mais au Québec, on est loin maintenant pour les pneus d'hiver. Je veux dire, on est demandeur aussi pour ça.
On accepte ça, Smart. On les accepte.
Je suis d'accord.
Il faudrait qu'on se lève, qu'on dise non.
Oui, mais on les accepte. Pourquoi on n'y renonce pas?
Je veux dire, le
discours que vous apportez... Parce qu'on est trop bien dans notre salon.
Oui, mais...
Oui, c'est parce que ça demande un effort de s'élever contre le gouvernement.
Ça, j'aime cette explication.
Non, de dire, moi, je vais faire ça. Même si ça va à l'encontre.
Donc, on est un peu lâche.
Smart, dans les années là, qu'on fait des shows ensemble là, une fois de temps en temps, là, combien de fois est-ce que je voulais démontrer qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne d'autre ici, puis que le gouvernement n'est pas au-dessus de nous autres? C'est juste que nous, on a malheureusement l'habitude de juste pas se lever debout. On prend, on demande, on requiert, on demande au gouvernement de nous élever.
Effectivement, et on l'a.
Mais on a le pouvoir.
Oui, je suis d'accord.
C'est dans nos chartes, dans nos choses. On le sait qu'on l'a.
Oui, puis on a fait la démonstration à l'émission qu'effectivement, les chartes, quand on les utilise, quand on les connaît, quand on est en mesure aussi d'avoir cette volonté-là de se faire, un moment donné, pas une justice, mais de se faire respecter dans ses choix et de ne pas se faire imposer justement des lignes directrices, on est capable, mais c'est un effort qui n'est pas donné à tout le monde non plus parce que la vie d'aujourd'hui fait en sorte que tout le monde est préoccupé à autre chose, on dirait. Moi, c'est
constant. C'est aussi le fait que prendre une décision, ça demande un effort, oui, et c'est insécurisant parce qu'on peut se tromper. Tandis que quand il y a une décision officielle pour tout le monde,
personne se trompe.
Il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de problème, c'est sécurisant, c'est la loi, ta-ta-ti-ta-ta-ta.
C'est ça, on l'assume, mais on n'a pas assumé une décision qui vient de nous autres.
S'ils l'ont dit, ça devait être bon.
Mmh. Oui.
C'est niaiseux, mais c'est ça.
Moi, je disais souvent... Quand on dit la nature horreur du vide, ben si on prend pas notre place, il y a quelqu'un qui apprend pour à notre place. Donc
c'est
souvent le combat, là, est-ce qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on prend la place?
Puis en leur donnant la possibilité d'être là 8 mandats en ligne ou comme ils veulent. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes ça, là, je veux dire, tu encourages ça dans un sens.
Je vous entends, là, je t'écoute tous parler depuis 5 minutes, mais il reste que il y a quand même des gens qui sont au pouvoir. Je veux dire, on les met au pouvoir, sont là, sont mandatés. Justement pour s'occuper de choses que je n'ai pas toujours le temps de faire. Écoute, moi, je suis un travailleur, je dois quand même gagner mon pain, mon beurre, et eux sont normalement mandatés. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas à cause que je mandate quelqu'un que je dois me dégager de toute responsabilité et d'accepter tout ce qu'il va me dire de faire, mais à quelque part...
Mais ils n'osent
pas non plus leur rôle et leur... Je veux dire, ils sont quand même en droit de l'exercer. Oui, ils ont des comptes à rendre. Puis on le voit avec les difficultés économiques qui s'en viennent, puis les foutus forums qu'on fait actuellement. On n'écoute pas le peuple, on le laisse s'exprimer, mais il n'y a rien qui est effectué. Il n'y a aucun virage, aucun changement.
Mais vous êtes d'une radio spéciale ici, Radio Choc.
Merci.
Vous qualifiez de... Je pense que les gens vous qualifieraient de droite.
Oui, ouais. Effectivement.
Un peu comme la radio de Québec, qu'on appelle Radio Poubelle à Montréal, avec beaucoup de mépris.
Oui.
Les opinions que vous émettez sont quand même très écoutées et sont quand même très partagées au Québec.
Oui.
Comment se fait-il qu'il n'y a pas de parti politique qui traduit ces valeurs-là?
Et ça, je...
À l'heure actuelle, c'est une question que je vous pose.
Power Corp. Ouais. Excusez. Power Corp.
C'est une bonne question et je pense qu'il y a des gens, puis là je vais parler au nom d'une peut-être d'une génération qui avait beaucoup de visée à travers l'ADQ, puis je pense que l'ADQ a démontré un peu son manque d'expérience et a pris des orientations peut-être un peu néfastes pour l'existence du parti. Puis effectivement, c'est peut-être aussi le fait que notre génération est dépolitisée aussi. Et peut-être que les gens qui ont le discours de droite, qu'on va qualifier de droite, ont peut-être pas ces objectifs-là qui sont assez souvent politiques, là, parce qu'on a l'impression que c'est par la politique ou par les politiques qu'on va être en mesure de changer le Québec de demain. Mais je sens aussi que les gens autour de la table ici, il y a personne qui va s'impliquer non plus dans un parti, qui va aller acheter sa carte de membre, puis s'impliquer auprès d'une organisation politique. Donc, puis nous ici à l'émission, puis FBI peut en témoigner, puis tout le monde ici autour de la table, puis ceux qui nous écoutent, ont essayé de partir des choses à droite et à gauche, des organismes, puis on est allé... lancer des appels à tous, puis on n'a jamais été capable de faire lever, là. Ça n'a jamais levé.
C'est pas évident.
C'est ça, la mobilisation, tout ça. Donc, la question est très intéressante, mais à quelque part, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on s'y prend pas de la bonne façon, peut-être parce que on n'est pas en mesure d'identifier peut-être le tronc commun.
Il semble qu'il y a que la gauche qui manifeste.
Oui,
qui fait des manifestations. Ouais.
Effectivement.
Il y a un livre, moi, de Alain, connaissez-vous Alain Mink? Le rédacteur en chef de Le Monde en France.
Non.
Je
ne
sais pas s'il l'est encore. Bref, il a écrit un livre il y a quelques années qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Épître à nos nouveaux maîtres ». Il y a 13 chapitres où il démontre que ce sont les groupes minoritaires qui ont le pouvoir parce qu'ils gueulent, ils parlent, ils manifestent.
Effectivement, oui.
Et que la majorité silencieuse suit.
Oui.
Que ce soit des mères célibataires, que ce soit des homosexuels, que ce soit...
Que ce soit qu'on leur donne du pouvoir. Que ce soit les religions aussi.
Des religions aussi.
C'est ce qui s'est passé. Ouais. Quand on dit largement souhaité par un Québec, c'est pas ça. C'est les groupes de pression qui ont fait en sorte qu'on a cru à ça.
Ils ont toujours gain de cause.
Oui, effectivement.
Il y a toujours une loi à la fin là qui satisfait leurs besoins. Mais l'homme de la rue, lui, qui est moyen ou de droite, lui, il manifeste pas.
Et c'est pas géré par l'exception, ça, par exemple?
Oui.
C'est ça qu'on fait. C'est qu'on gère par l'exception tout le temps.
Mais c'est ce qu'on fait.
Puis peut-être celui qui n'a pas le temps de manifester, c'est peut-être parce que lui, il travaille à la sueur de son front, puis il n'a pas le temps de réfléchir à ces choses-là.
Oui, c'est ce que notre ami Sylvain Bouchard appelle l'école rouge.
Ouais,
oui,
c'est ça.
Mais quelque part, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus tomber. Je veux dire, faut pas basculer aussi dans le fait que c'est parce qu'on travaille qu'on doit pas non plus s'intéresser à notre avenir. Je pense que justement, on s'implique, on paye des impôts, on paye des taxes, donc on a le devoir de le faire. Mais ultimement, c'est sûr que ça, c'était un grand débat de société. Mais par rapport aux religions, je pense que c'est la même chose qui s'applique. Si aujourd'hui on a revu un peu notre système d'éducation, tout ça, oui, il y avait une grande partie de la population qui en voulait à l'Église, mais on a quand même modifié nos programmes, on a quand même intégré, en plus de sortir le catholicisme, on a intégré toutes les autres religions. Je pense qu'à quelque part, on a encore là géré par exception. Moi, c'est comme ça que je le découvre.
Je pense qu'on le fait, la laïcisation qu'on peut critiquer, on le fait de façon beaucoup plus douce ici au Québec qu'on le fait en Europe, en France. Parce qu'en France, à l'heure actuelle, c'est pas joli ce que je vois. Et en Belgique non plus.
Mais est-ce qu'il faut en arriver là, peut-être?
Non, moi, je souhaite pas laïcisation d'une société. Je pense qu'une société qui est saine ne doit pas renier ses racines judéo-chrétiennes sans les imposer, mais ne doit pas occulter tout ce passé qui fait partie de sa culture. Crucifix, statues, église et tout.
Mais moi, je le dis peut-être parce que c'est peut-être un moyen de rebondir. Parce que si on règle nos comptes avec l'Église une fois pour toutes et puis qu'on repart sur des bases qui sont peut-être différentes, peut-être qu'on va être en mesure de se trouver une identité à ce moment-là qui sera plus près des futures générations et d'un système éducationnel qui sera peut-être en mesure
C'est-à-dire que cette Église catholique devra continuer d'évoluer, puis évoluer beaucoup plus rapidement qu'elle le fait présentement.
Oui, mais encore là, de quelle façon on va pouvoir le faire si les gens délaissent cette Église-là? C'est là qu'il y a un paroxysme.
Il va falloir que les évêques, puis le pape se réveille à un moment donné, puis qu'il constate qu'il y a une saignée importante, puis qu'il y a une seule religion florissante à l'heure actuelle qui s'appelle l'islam, pour laquelle... le corps de fidèles augmente.
Oui, oui. Mais parce qu'imaginez-vous,
c'est une religion simple.
Oui, oui.
Imaginez, il y a juste 5 canons dans l'islam.
Oui.
Imaginez quelqu'un qui débarquerait sur la Terre qui aurait une religion à choisir, un extraterrestre. Vous lui proposez la religion catholique. Il y a 3 personnes en Dieu. Ah, ouais. 3 personnes qui forment la même unité. Un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Le Fils s'est incarné, il est devenu homme et Dieu en même temps, issu d'une femme vierge.
Hein? C'est
bizarre.
Essayez d'y faire croire ça, mais là, vous avez l'échappatoire, vous dites « Ah, c'est un mystère.
Hein? » Faut que tu aies la foi.
Tandis que la religion, c'est une des raisons fondamentales du succès de l'islam, c'est une religion qui est simple.
Hein? Mais battre une femme, c'est pas facile.
Ils disent, il y a un seul Dieu, c'est Allah, Mohamed est son prophète, il faut faire la charité, hein, l'aumône, il faut aller au moins une fois dans sa vie à la Mecque, il faut faire la prière 5 fois par jour. Puis il y en a un autre qui m'échappe, là. Le ramadan. Le jeûne pendant le ramadan.
Oui, c'est vrai.
40 jours.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais... ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans des pays musulmans. Le ramadan, c'est pas facile.
Eh bien, merci beaucoup de vos explications puis de la mise en contexte qu'on a faite. Puis on va passer à notre prochain sujet. On va faire une petite pause.
Oui.
Reprenez vos esprits et tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour parler de la catastrophe qu'on va aborder, qui est celle de Haïti. Vous allez être en mesure de le faire. Donc, 1-866-497-4738 ou au 780-0876 pour ceux qui sont dans la région de Québec. On se retrouve de l'autre côté. Vous écoutez Radio Choc sur les ondes de XM 172.
Radio Choc and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, c'est une gang de chums qui jase autour d'une petite bouteille de vin, puis quelques petites frettes. Puis si t'as le goût de les joindre, ben, compose donc le 1-866-497-4728.
Radio Choc and Friends.
Nouvelle référence en suppléments sportifs et nutritionnels au Canada, Naturellement en forme propose une vaste gamme de produits de qualité, tous approuvés par Santé Canada. Nos conseillers qualifiés et formés vous inspireront confiance. Multivitamines, protéines, barres protéiques, boissons énergétiques, créatines ou encore brûleurs de gras, que ce soit pour perdre du poids ou augmenter votre masse musculaire, faites confiance à Naturellement en forme. Visitez notre magasin en ligne au www.nfquebec.ca ou composez le 418-844-2444.
Radio Shock and Friends.
C'est quoi donc l'affaire?
Ben, l'intelligence de Smart, les niaiseries ad hoc, puis tout le reste du monde qui vient mettre un équilibre dans tout ça.
Radio Shock and Friends.
Pain without love, pain. I can't get enough pain. Like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all.
Without love, I can't get enough.
avertissement. Cette émission n'est pas de la fiction. Toutes les voix entendues sont des personnes bien réelles. La preuve?
Ben, c'est qu'il ferait pas autant d'erreurs. Radio Shock and Friends.
Et on est de retour et je tiens à le dire, je viens... Oups! La fin.
C'est un arabe.
Non, je tiens à le dire, il y a l'auditeur qui a appelé puis il a tout à fait raison. Il dit, écoute, là, si vous parlez d'Haïti comme on entend actuellement dans nos médias, moi, je change de poste puis on veut pas que vous changez de poste. Et de deux, c'était pas le but, justement. C'est ce qu'on voulait, c'est vous parler, oui, la catastrophe, mais on va tout d'abord dresser un portrait. Angle. Oui, puis on parlera pas juste de la catastrophe Haïti, on va parler des séismes puis de tout ce qui... C'est un monde assez, pas particulier, mais c'est facile de faire peur avec toutes ces choses-là. Mm. Puis là, on est rendu dans le côté catastrophique de la chose, puis là, on tourne des belles images, puis on vous demande de contribuer par vos fonds. Mais ce qu'on veut ce soir, c'est regarder l'aspect scientifique. Hey, on est chanceux, on a un ingénieur, un géologue, sismologue, toute la patente, les logs, on les a toutes. Et je pense que c'est important de faire une bonne mise en situation. Puis FBI, j'y vais parce que tu nous as préparé des questions juteuses pour notre scientifique. Donc,
juteuses.
Oui, dans le sens où elles sont consistantes.
Pleine de jus, là.
Vas-y.
Non, moi, c'est dans le fond, je l'avoue, là, je vais me faire plaisir ce soir. Okay? Donc, vous participerez, mais...
Puis là, il se touche le corps en parlant.
Non, mais ça serait tentant.
On peut tamiser la lumière.
Ça aurait dû de faire plus que ça. Mais c'est d'arriver, dans le fond, à la base de c'est quoi le tremblement de terre. Puis après ça, on ira voir qu'est-ce qui s'est passé en Haïti en tant que tel. Donc, on a un sismologue ici. Donc, je veux parler de sismologie, carrément. Donc, ouais. Je laisse savoir des questions bien simples. On parle de tremblement de terre. OK? Y a-tu différents types de tremblements de terre? Puis comment qu'on pourrait expliquer ça de façon à le vulgariser pour que ça soit simple pour tout le monde? Parce qu'on on prend tout pour acquis dans la sismologie, hein?
Ouais.
On prend le bulletin de nouvelles, puis c'était un tremblement de terre de 7 à l'échelle de Richter. On connaît tout le vocabulaire un petit peu, mais on s'est jamais vraiment posé la question, gratter, puis voir c'est quoi. Donc c'est un peu ça que je veux en venir avec cette portion-là. Donc les tremblements de terre, ils peuvent se produire de combien de manières?
Bon, il y a différents types, comme tu viens de dire, de tremblements de terre. Il y en a toujours eu des tremblements de terre depuis que la Terre s'est refroidie puis a formé une croûte, hein, une lithosphère qu'on appelle, qui est une croûte rigide là, qui peut casser, donc devient cassant. Donc, pour qu'il y ait un tremblement de terre, il faut qu'il y ait des efforts qui s'accumulent dans cette croûte terrestre-là, dans cette lithosphère qu'on appelle. Il y a une déformation qui se produit suite à ces efforts-là. Et à un moment donné, la roche ne peut plus se déformer, elle doit casser. Okay. C'est là que se produit la faille, le tremblement de terre. Et la plupart des tremblements de terre se produisent sur des failles qui existent déjà.
Et qui ont des noms.
Oui, il y a des failles célèbres, comme la faille San Andreas en Californie.
Mais c'est pourquoi on donne un nom? C'est d'où vient ce nom-là? C'est-tu comme un peu le chercheur, la personne qui l'a trouvé, ce nom?
Souvent, c'est ça. Comme près d'ici, dans le fleuve Saint-Laurent, on a la faille de Logan, qui tire son nom de William Logan, un des premiers géologues canadiens qui l'a cartographié. Hein, il y a des failles comme Destor en Abitibi, le San Andreas en Californie, la faille d'Anatolie au nord de la Turquie. Hein. Mais plusieurs de ces failles-là sont des bordures de plaques tectoniques.
Tectonique, voilà.
Hein. Donc, il faut voir le globe comme étant formé d'une lithosphère d'à peu près 100 km d'épaisseur qui est rigide.
C'est assez épais, hein?
Cassé. Et cette lithosphère-là est divisée en blocs qu'on appelle des plaques tectoniques. Il y a des plaques immenses comme la plaque du Pacifique. Il y a des plaques minuscules comme la plaque des Caraïbes qui a causé le tremblement de terre de la semaine dernière en Haïti. Il y a des plaques moyennes comme la plaque de Nazca qui s'enfonce en dessous de l'Amérique du Sud à une vitesse assez grande. Hein? C'est la plaque la plus rapide au monde. Hein? Dans quelques 9 millions d'années, les Galapagos, que j'ai eu le bonheur de visiter en 84, ont complètement disparu en dessous de l'Amérique du Sud. Content de l'avoir vu.
Et ce ne sera pas la fonte des glaciers, là.
Non, faut pas. Les glaciers, c'est relativement récent par rapport à ça, non.
Donc, ça va être un phénomène géologique.
Ouais. Puis, il y a d'autres tremblements de terre qui peuvent être causés par d'autres causes. Il y a les cryoséismes. Quand j'étais au Saguenay, j'avais mon sismographe à l'entrée de l'université. Je faisais un concours. Les gens avaient à la radio, à quelle date le lac Saint-Jean va-t-il caler? Hein? À chaque année, c'était un concours. Moi, j'avais mon concours. À quelle date on aura nos premiers cryoséismes? Cryoséisme, c'est les tremblements de terre déclenchés par le gel. Vous savez, l'eau rentre dans les fractures du roc, gèle, forme un coin de glace, puis c'est de l'expansion, bang, ça pète. Puis moi, sur mon sismographe, dans une nuit autour du fin novembre, là, j'ai à peu près, comme du pop-corn, paf, paf.
Ah ouais.
Il peut y en avoir une cinquantaine dans la nuit. Et ça, ça se produit en général la nuit où on a les premiers gros gels sérieux. Okay. J'avais parti un concours comme ça.
C'est comme les clous qui pètent l'hiver là, dans nos maisons. Hein, c'est à peu près le même principe.
Pètent, c'est, le même, c'est les clous qui se rétractent.
S'humidifient.
Ouais, ouais.
OK, c'est bon. Donc là, il y avait une différence entre les fissures et les plaques tectoniques.
Il y a aussi les tremblements de terre d'origine volcanique. Okay. Quand le magma monte en surface pour annoncer une future éruption, c'est une des techniques, d'ailleurs, pour prédire les éruptions volcaniques, les petits tremblements de terre. Mais la grande majorité des tremblements de terre, je dirais 80-85%, soit des embordures des plaques tectoniques, soit dans des régions où les plaques rentrent en collision les unes contre les autres, ou dans des régions où les plaques coulissent les unes contre les autres, ou dans des régions où les plaques se forment, comme les dorsales océaniques.
Okay.
Mais il y a quand même une certaine proportion de tremblements de terre qui échappe à cette définition-là de bordure de plaques. C'est les tremblements de terre qu'on appelle intraplaques, comme ceux que nous avons ici au Québec, dans Charlevoix, dans le nord de Montréal. Et Charlevoix, Kamouraska, est la zone sismique intraplaque de la plus active de tout l'Est de l'Amérique du Nord. Pas seulement du Canada, mais de tout l'Est de l'Amérique du Nord.
OK. Puis ceux-là, c'est le phénomène s'explique comment?
En partie, peut-être. C'est encore une hypothèse, parce que malheureusement, la plupart de ces foyers de tremblement de terre-là sont en dessous du fleuve, dans l'eau. Ils sont très difficiles à étudier. Il y en a certains sur la terre ferme, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, Kamouraska, mais la majorité des épicentres échappent à l'investigation directe. Il y a une météorite qui s'est abattue là, il y a des millions d'années, qui a fracturé la croûte terrestre sur à peu près trentaine de kilomètres d'extension. Puis une trentaine de kilomètres aussi d'épaisseur.
Et c'était bon? C'était une bonne météorite?
Oui.
Une belle grosse balle de golf?
Imaginez le tremblement de terre déclenché par un choc météoritique comme ça.
Et ça devait être énorme.
Cette météorite-là avait peut-être un kilomètre de diamètre.
Ça rentrait.
Alors, ça a fait un cratère de 30 kilomètres de rayon. Et moi, j'en ai vu une au lac Saint-Jean tombée près de Saint-Bruno, qui a fait juste un petit cratère de 3 pieds. Mais la météorite ne devait pas être plus grosse que le pouce. Mais il faut voir que cette météorite arrive à une vitesse supersonique. C'est plus vite qu'une balle de fusil. Donc, ça crée une onde de choc qui crée beaucoup de fractures. Donc, c'est extrêmement dommageable. Donc, la croûte terrestre dans la vallée de Saint-Laurent étant fragilisée dans la région de Kamouraska-Charlevoix à cause de cette...
Comme un pare-brise qui a reçu une roche, là,
il est fragile à cet endroit-là. C'est comme une planche, un nœud dans une planche. Vous pliez la planche, s'il y a un nœud dedans, il y a plus de chances que la planche casse près du nœud qu'ailleurs, où c'est sain. Hein? Donc, il y a une faiblesse. Il faut voir peut-être l'activité dans Charlevoix comme causée en partie par ça.
Deuxième raison pourquoi il faudrait quitter le Québec, en plus du gouvernement qui nous...
il y a des tremblements de terre.
C'est craqué en dessous de nous autres, on sac notre camp.
Ouais. Ouais. Okay. Pour les plaques tectoniques, on parle encore de théorie. Hein. Il y a encore des choses qui sont pas claires là-dessus. Non. C'est pas,
On parle d'une théorie, mais quand j'étais à l'université, moi, la très sainte Université Laval dont je vous ai parlé tout à l'heure, mes professeurs avaient un sourire en coin quand on leur parlait de dérive des continents. Le mot tectonique de plaque n'existait pas encore. Mmh. C'est un concept qui est apparu dans les années 70. Bon. Mmh. Mais quand j'étais étudiant, moi, on parlait de dérive des continents, qui est un vieux concept que, dans les années 30, un Allemand, Wegener, Alfred Wegener, qui était un météorologue, a osé proposer. Lui, il a regardé la côte ouest de l'Afrique, puis la côte est de l'Amérique du Sud, puis il a vu que les continents semblaient bien s'emboîter. Après ça, il a fait des études de flore et de faune. Il a vu que les fossiles d'un côté puis de l'autre se ressemblaient beaucoup. Ils ont dit peut-être que ces deux continents-là ont déjà été ensemble. Mais il a fait rire de lui par les géologues, par toute la communauté géologique pendant 50 ans. Hein? Et là, je reviens à mon affaire du réchauffement climatique. C'est ce qui prévaut présentement. Les sceptiques comme moi, qu'on dit « bof, c'est le soleil, probablement qui est la cause des changements climatiques », on fait rire de nous autres. Parce qu'il y a une communauté officielle, entre guillemets, là, le GIEC, qui a dit « Non, c'est l'homme qui est responsable. » Quand on va apprendre la vérité, hein, les gens vont dire « On a été trahi par la science puis par les scientifiques. On a vécu la même chose sur la tectonique des plaques. On s'est trompé. On a ri de Wegener. Mais au début des années 70, on s'est aperçu qu'il avait raison. » Oui, puis toute la géologie devait être réexaminée et réexpliquée dans le cadre, dans le contexte de cette nouvelle théorie qui s'appelle la tectonique des plaques.
Mais vous avez raison de dire qu'on assume bien les choses, puis on entend des discours, puis on l'a entendu aussi pour Haïti, on a dit que, bon, tout ça, il y en a qui l'ont dit, là, je vous le dis, que c'était lié encore là à l'homme, parce que ils disent qu'on va en voir de plus en plus des séismes, parce que la Terre est influencé, mais c'est ça, là, qui on croit, puis quand on écoute nos médias de masse, ben là, on est là, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui sont convaincus que là, ce qui se passe à Haïti, c'est en lien avec ça, je suis pas convaincu de ça, mais je me dis, non. Encore là, il y a des rationnels, puis c'est ce qu'on fait, là, on démontre que il y a toujours eu des séismes, puis il y en a de différentes catégories, et Haïti est j'imagine, là, au-dessus d'une plaque tectonique qui a bougé, qui a craqué.
Le seul cas où l'homme a déclenché des tremblements de terre ou peut déclencher des tremblements de terre.
Bon.
Il y a deux cas, en fait, il y en a deux. Il y a les remplissages de réservoirs, je pense à Manic 3 en particulier, où on a déclenché une magnitude de 4 et...
Hein?
Oui.
Ah oui?
En remplissant, vous saviez pas ça, hein?
Non.
Bon. Quand on remplit un réservoir derrière un rebarrage, vous avez de l'eau qui pénètre dans les fractures qui tapissent les parois du réservoir. Cette eau-là agit un peu comme un lubrifiant. Alors, s'il y a déjà des contraintes dans la région qui se sont accumulées, ces contraintes-là vont se relaxer, vont se relâcher parce qu'on leur fournit un lubrifiant le long de ces feuilles-là. C'est des tremblements de terre. En général, c'est des petits tremblements de terre. Des 4, 4,5, c'est relativement rare. Mais ça s'est produit à Manic 3. On a dû arrêter le remplissage de réservoirs, installer des sismographes pour voir un peu ce qui se passait. Bon, j'ai un ami aux États-Unis qui est l'autorité mondiale dans ce domaine-là. Il s'appelle... Pradip Talwani, et lui, avant qu'un réservoir soit rempli, il a installé des sondes dans le fond du réservoir pour voir un peu comment les tremblements de terre se propageaient au fur et à mesure que l'eau montait dans le réservoir. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est les essais nucléaires qu'on a faits.
Ouais.
Hein, qu'on n'en fait plus maintenant, mais à l'époque, je me rappelle, moi, ça me faisait titiller parce que on ne parlait pas de kilotonnes, mais des mégatonnes qu'on faisait péter à Kamchatka puis Yamchatka. Hein, dans les Aléoutiennes, puis les Russes avaient leur truc. Vous savez pourquoi ils faisaient ça, là? Parce qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre, puis ils essayaient de camoufler leurs essais nucléaires en attendant qu'un tremblement de terre se produise. Puis là, ils envoyaient leur pétard. Mais j'ai un ami, Bob North, qui faisait sa thèse doctorat à ce moment-là, qui, lui, a réussi à faire ressortir, en filtrant, l'essai nucléaire parmi plusieurs tremblements de terre.
OK.
Donc, on est capable aujourd'hui d'identifier un essai nucléaire.
Mais c'est justement quand on regarde les plus grands séismes qu'il y a eu dans l'histoire, les plus meurtriers, là, on va y aller sur cette base, il y en a beaucoup en Chine et au Japon.
Oui.
Parce que, quoi, il y a une plaque là-bas qui est la plus active? Ou...
Ça, Steve, c'est une bonne question. Quand on regarde l'histoire des tremblements de terre dans le monde, on s'aperçoit que les épicentres suivent les populations. Autrement dit...
Plus que le monde?
Ben oui, je vais vous donner l'exemple.
Là, on va faire un parallèle.
Si vous regardez les tremblements de terre au Québec, dans l'Est de l'Amérique du Nord, au Québec en particulier, puis que vous regardez comment les centres de population se sont établis, on regarde l'histoire, on regarde surtout les relations des Jésuites, parce que ce sont les religieux qui ont gardé les relations écrites des tremblements de terre. Marie de l'Incarnation, les Jésuites. On s'aperçoit que... On rapporte un tremblement de terre à Montréal, mettons, en 1780. Mais l'épicentre n'était pas à Montréal. Il était en Abitibi. Sauf qu'il n'y avait personne en Abitibi en 1780, à part des Indiens qui n'ont pas regardé de relations écrites. Mais quand les gens commençaient à coloniser l'Abitibi, ils ont commencé à sentir des tremblements de terre dans le nord de Montréal, en Abitibi, un peu partout. Alors, quand on fait l'étude... des épicentres de tremblements de terre dans l'histoire, en les prenant par tranche, mettons, okay, 50 ans,
oui.
On s'aperçoit que plus les populations s'établissent et sèment à travers le territoire, plus les tremblements de terre sèment aussi.
Okay.
Donc, il faut faire attention. Il y a un biais humain dans l'étude des tremblements de terre. Moi, j'ai étudié les tremblements de terre historiques quand il y a eu le tremblement de terre du Saguenay. Un père jésuite rapportait un tremblement de terre près du lac à la Croix, au lac Saint-Jean. Il dit, on est samedi saint, on est en 1667, je baptise un Indien du nom d'un tel et je sens un tremble-terre. Bon, il appelait ça un tremble-terre. Il met ça dans ses relations. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le gouvernement fédéral qui collige tout ça a mis beaucoup d'épicentes à Tadoussac. et qui ne sont pas en réalité à Tadoussac parce que le père a écrit ça quand il était à Tadoussac. Mais la relation du tremblement de terre qu'il fait, c'est, ça se rapporte à un tremblement de terre qu'il a vécu quand il était en voyage au cours de l'hiver. Donc, il y a beaucoup d'épicentres comme ça qui ne sont pas au bon endroit. Parce qu'on a comme document que les relations des jésuites et les récits de Marie de l'Incarnation qui sont assez éloquents là-dessus.
Et pour ce qui est d'Haïti, c'est quoi exactement qui serait peut-être survenu ou comment vous le voyez?
Bon, Haïti, ça a surpris pas mal de monde. Moi aussi, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un événement fort comme ça. D'autant plus que la faille qui sépare la petite plaque des Caraïbes de la grande plaque d'Amérique du Nord n'est pas tellement active comparée à la faille San Andreas. C'est le même type de faille, hein? C'est des failles transformantes, mouvement horizontal. Cette faille-là n'avait pas bougé de façon grave là, depuis 1860. Puis depuis 1860, Port-au-Prince s'est développé. Je ne sais pas combien la population est rendue. Là.
C'est 9 millions.
C'est... Non, ça, c'est l'Haïti au complet. C'est ouais, à peu près 2 ça. Millions.
Ben, à peu près. C'est une grosse ville. On pense qu'à une ville comme Montréal. Là,
oui, oui. Hein?
Mm-hmm. Bon, mais ce n'était pas comme ça en 1860. Des gens avaient peut-être pas raison de se méfier. Mais là, ils ont vraiment été pris par surprise.
Mais justement, sachant tout ça, pourquoi on n'a pas à l'époque, parce que vous dites qu'il y en a eu un en 1860, je veux dire, on a quand même construit un pays, une grande ville, tout près d'une faille. Puis aujourd'hui, bon, vous le dites, on est un peu, tout le monde surpris, je dirais en général, de voir qu'il y a autant de dégâts qui est fait. Ouais. Mais c'est-tu justement parce que on n'a pas écouté un peu Dame Nature, puis on a peut-être été un peu, comment je pourrais dire,
téméraire
et opportuniste dans le sens où on établit... bon, des collectivités au, sur le bord d'un précipice, là.
Bon. Il faut réaliser une chose. Il y a des gens qui vivent sur des failles, comme en Californie.
Oui.
Les gens de Los Angeles, San Francisco.
Effectivement.
Ils savent qu'un jour, ils vont avoir un Big One.
Yes.
Ils ne savent pas quand, mais ils savent que c'est certain qu'ils vont en avoir un. Les gens à Vancouver aussi. Sauf que, on a des cas, des cas du bâtiment.
Bon, je suis content que vous embarquiez là-dessus.
C'est extrêmement sévère. Moi, j'ai été impliqué un peu là-dedans dans des études de ce qu'on appelle de risque sismique pour des structures critiques. En général, des barrages et surtout des centrales nucléaires. Moi, c'est le domaine qui m'intéresse.
J'espère.
Bon, j'ai travaillé un peu là-dedans.
Parce qu'il y en a sur la côte ouest, des choses comme ça.
Oui, oui. J'ai été impliqué dans un projet, entre autres, qui visait à doter l'État de Washington de 3 nouvelles centrales nucléaires. C'était en 1977. Il fallait qu'un Canadien prenne charge du projet parce que le tremblement de terre qui nous gênait, c'était un tremblement de terre qui s'était produit dans le sud de la Colombie-Britannique. Il fallait que je démontre, hors de tout doute raisonnable, que l'épicentre qu'on avait fixé là, au 18e siècle, était vraiment, au 19e siècle, était vraiment là, dans le sud de la Colombie-Britannique, et non pas dans l'État de Washington. Et ça, ça changeait en termes de on parlait de centaines de millions de dollars le coût de construction des centrales nucléaires. Parce que la loi américaine dit que si vous ne pouvez pas identifier une structure, une faille sur laquelle vous pouvez mettre vos tremblements de terre importants, vous devez prendre le plus gros tremblement de terre de la région, l'amener en dessous de la centrale nucléaire, puis calculer la centrale nucléaire en conséquence. Okay. Ça coûte des sous. Mais si vous pouvez identifier une structure qui peut ne pas être une faille, une structure qui craque, qui casse, à laquelle vous pouvez racoler cet événement historique important, vous le laissez là, puis vous l'atténuez jusqu'à la centrale nucléaire. Vous faites le calcul en conséquence. Ça fait une grosse
différence. Mais si je vous pose une question directe, justement, est-ce que Haïti n'a peut-être pas cherché à sa perte en faisant...
Haïti n'a pas les moyens...
Non, je sais qu'ils n'ont pas les moyens...
...de faire ces études-là.
Mais, je veux dire, quelque part, parce que là, les communautés internationales, tout ça, tout le monde veut faire son... Ça part, puis va être généreux dans l'approche, mais parce que là, on parle de reconstruction, on parle de remettre tout ça en place, mais si on regarde la part de quelqu'un comme vous au sein de projets comme ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui aurait dû être fait dans le passé et peut-être prendre conscience un peu de l'historique, puis de regarder un peu aussi, parce que là, FBI vous a posé des questions justement qui relatent des plaques tectoniques, des choses qui existaient déjà là. On n'a pas inventé le séisme le mois passé, là.
Quand j'étais professeur à l'UQAC, j'étais abonné, je faisais partie d'une association qui s'appelait Earthquake Engineering Research Institute de Californie. Et à chaque gros tremblement de terre, on publiait une brique d'à peu près 200-300 pages qui s'appelait Lessons Learned from the So-and-So Earthquake. Et là, vous aviez différents chapitres, sismologique, technique, engineering, sociaux, hôpitaux. Qu'est-ce qui a bien été, puis qu'on avait prévu qu'il aille bien? Qu'est-ce qu'on avait pensé qui irait bien, qui a mal été? Puis qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir s'il y en a un autre? Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse en Haïti. Il faut qu'on tire des leçons. Mais là, à l'heure actuelle, vous avez le scénario de l'Atlantique, je vous l'ai écrit sur Internet. Oui. D'ailleurs, il y a un tremblement de terre, les téléphones sonnent. Moi, j'avais 30 appels de Radio-Canada, j'avais LCN, j'avais RDE. Bref, tous ces médias qui ont essayé de me rejoindre. J'étais au Mexique, chez moi. Il y en a quelques-uns qui ont aussi réussi à me rejoindre là-bas. Ils veulent parler à un sismologue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où ça a craqué? Y en as-tu déjà eu avant? Y vas-tu en avoir d'autres? Bon, ça, c'est la première réaction des médias. Deuxième réaction, c'est l'appel à la mobilisation, à la solidarité, à la compassion. On en est là encore à l'heure actuelle. Il n'y a personne qui a parlé beaucoup de construction, de normes, d'ingénierie, de zonage sismique.
Mais est-ce que ça vaut la peine?
Ben oui, il va falloir qu'on...
Est-ce que c'est un sol qui... Parce que là, on entend des choses comme de quoi que le sol soit friable, que ça a été... on a coupé les arbres, il y a plus de flore pour retenir peut-être l'écoulement des eaux.
Non, moi, je pense pas qu'il faille aller jusque dans des explications aussi compliquées.
Non?
On a affaire à une magnitude 7. Il faut quand même réaliser que c'est 13 fois plus fort que ce qui a frappé le Saguenay en 88. Puis en 88, ici, il y a eu des dégâts.
Parce que c'est exponentiel. Ça. Quand on parle de 7 c'est par rapport à 4, c'est pas
logarithmique.
Juste... C'est ça.
C'est ça. Donc, rappelez-vous, le tremblement de terre du Saguenay a fait des dommages jusqu'à Montréal. Bon, mettez un tremblement de terre 13 fois plus fort que ça, très près de la capitale qui comprend, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 millions d'habitants, avec des normes de construction extrêmement rudimentaires, précaires. On est à un pays primitif, pauvre, hein? On n'a pas de normes comme on a ici à Montréal ou à Québec. Donc, vous avez le bilan que vous avez. C'est pas étonnant. J'ai vécu la même chose quand j'étais en Iran, à BAM.
Ce que vous dites là, c'est important. Ça prend pas juste de l'argent, là, demain matin, là. Ça va prendre des codes. Ça va prendre un changement aussi dans la nature des gens. Ça va prendre un champ.
À l'heure actuelle, les gens disent ça prend de l'argent. Oui, ça en prend pour les secours immédiats, pour patcher, pour penser les plaies les plus visibles. Mais à long terme, il va falloir remettre ce pays-là sur ses pattes. Et c'est un pays qui a souffert beaucoup. Pourquoi? Regardez l'île d'Hispaniola. C'est quand même une seule île. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a un côté qui s'appelle République dominicaine qui est relativement prospère, qui a été colonisé par des Espagnols, du tourisme à l'heure actuelle? Oui. Puis pourquoi qu'Haïti, colonisé par des Français, c'est la dèche, c'est la pauvreté, c'est la misère, puis tous leurs bons éléments ont sacré le camp, sont rendus au Québec? Pourquoi? On peut-tu se la poser, cette question-là? Y a-tu eu des erreurs politiques faites par le passé dans le colonialisme, le type de colonialisme? Quand je vois les Français donner des leçons aux Américains...
Ouais, moi, ça me fait rire, moi.
Hein? Oui, mais en parlant de leçons, voulez-vous en entendre une leçon? Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Et ça, je veux la faire entendre à nos auditeurs, parce que ça vaut la peine. On a quelqu'un d'Haïti qui fait une leçon. On l'écoute.
Donc, on va... parler déjà de reconstruction en Haïti, Doc Merville, c'est une bonne initiative de la part du gouvernement canadien?
Absolument. Ben déjà, ça vient justement nous calmer parce qu'on voit, par exemple, les Américains qui sont sur place là-bas et qui prennent possession
de beaucoup
de place. Et ça fait peur parce qu'on sait qu'on parle quand même d'un pays qui avait quand même occupé le pays en 1915. On voudrait pas avoir l'impression d'assister à un coup d'État camouflé, surtout après la dévastation qu'on vient de voir là.
Donc on parle de coup d'État.
N'importe quoi.
Ça s'appelle n'importe quoi.
Mais on est parti et puis on est parti là d'un séisme, ok? Puis là on
l'a politisé. On a politisé la question climatique.
Oui, mais c'est toujours ce qu'on fait. Puis, je pense que, encore là, il y a une explication scientifique là, au séisme.
Oui.
Qui est pas politique, qui a pas rapport avec la colonie, qui a pas rapport avec le régime en place, avec les Américains, avec les Français.
Oui, comme il y a une explication scientifique au changement climatique, mais qu'on a que les gauchistes, ils s'en sont emparés, ils en ont fait une cause qui sert leur cause. Et que ce soit un tremblement de terre ou un changement climatique, vous aurez toujours des gauchistes qui vont utiliser le phénomène à leur profit pour propager leur théorie, leur idéologie. Et c'est ce que monsieur, il s'appelait Locke Merville.
Ben oui.
Bon, c'est ce qu'il vient de faire.
Mm. Il y a une pensée du 19e siècle, carrément, ce gars-là. Là. Ouais. La façon qu'il vient de parler, là, c'est carrément... là. La,
Witness sort de sa corps.
Mais non, mais, hey, ils viennent dire les Américains qui veulent faire un coup d'État camouflé.
Un coup d'État.
Voyons donc, est-ce, ça se peut pas dire ça.
C'est mais, du satanisme.
Mais ça, c'est ouais. le gars, ça, c'est le gars qui est venu, c'est plein d'Abraham, lire le manifeste de FLQ cet été, cet automne.
Il l'a pas juste lu, il l'a dit avec rage et violence. Ouais. C'est vraiment quelque chose.
Ça, c'est le gars qui veut faire pitié, mais dans le fond, il nous crache dessus par, dans le
Mais dos. Il a chanté aussi, il faut pas craquer.
Il y a quelqu'un qui a osé faire un lien entre les changements climatiques et les tremblements de terre. Connaissez-vous Bill McGuire?
Non.
Non? Vous regarderez ça, un article dans le Guardian.
OK.
Où est-ce que la personne parle vraiment de ça? C'est un scientifique du Benfield Hazard Research Center du University College London.
Ah.
Donc, vous ferez une recherche, là, Bill McGuire, dans le guardian.ca. .co.uk.
OK.
Regardez ça. Mais déjà, il y en a déjà là, qui ils font des lubies. Là, puis il faut trouver un lien avec tout. Tout ce qui est catastrophique doit avoir un lien avec le climat.
Là, ben oui. Moi, quand il y a eu le tremblement de terre du Saguenay, les gens m'ont dit hey, dans plusieurs années après, M. Duberger, c'est un temps de tremblement de terre. Hein? Ça ressemble drôlement au temps du 25 novembre. Là. Le foyer du tremblement de terre était à 29 km. Savez-vous quelle température il fait à 29 km?
Il doit être assez chaud, merci.
Minimum 300 degrés Celsius, maximum 600. On ne sait pas, mais c'est minimum 300. Là. Alors, la température en haut... là.
Ouais, c'est ça. C'est pas le fret que tu ressens non, à moins 20.
Non. La langue, elle ne colle pas sur le poteau, à cette température-là.
Non, elle brûle. La langue te brûle, là, c'est vrai.
Elle ne colle pas sur le poteau.
Ça va. Qu'est-ce qu'on dit, là? L'échelle de... 7 sur l'échelle de Richter.
Ouais, j'aime pas ça, 7 sur l'échelle.
7, c'est
j'aime
quoi?
Pas ça, le mot, l'échelle de Richter. Ouais, pour nous autres, les sismologues, ça n'existe plus.
Ouais. Mais juste une question avant. Ouais. C'est quoi le chiffre 7? C'est-tu le nombre de secousses secondes? C'est-tu la longueur que ça bouge par seconde?
Il faut regarder d'où ça vient, cette notion de magnitude. C'est inventé par M. Richter. Mm-hmm. Pour la Californie, M. Richter a dit, je veux quantifier les tremblements de terre pour donner une idée de leur taille avec une échelle. Bon, il a défini la magnitude 1. Il dit, magnitude 1, ce sera un tremblement de terre qui va produire un déplacement de 1 cm sur un sismographe de type Wood Anderson Standard installé à 100 km d'épicentre. Ça, c'est à son étalon. Magnitude 2, ça va être un tremblement de terre qui va produire deux fois plus de mouvement que ça. 3 fois plus 4, bon, il s'est aperçu que c'était logarithmique. Autrement dit, l'énergie élastique entre un tremblement de terre de magnitude 1 et 2, c'est un facteur de 10 à 13 à peu près. Mm-hmm. Mais l'énergie totale, c'est 33. Un tremblement de terre de magnitude 7 est 33 plus fort au point de vue énergie totale qu'un tremblement de terre de magnitude 6. Sauf que, il y a une grosse partie de l'énergie qui est dégagée sous forme de chaleur, parce qu'un tremblement de terre, c'est une rupture le long d'un plan de fer, il y a un frottement. Mm. Et cette chaleur-là, on ne peut pas la mesurer. On ne la mesure pas. Nos sismographes ne mesurent que le mouvement, vertical ou horizontal de la roche, pas la chaleur dégagée. Donc, au point de vue mouvement, secouement, ébranlement, un tremblement de terre 7 est 13 fois plus ébranlant qu'un tremblement de terre de magnitude 6.
Okay. Hey, il reste à peu près une minute à l'émission.
Non, juste une dernière.
Vite, vite.
Ça serait quoi votre échelle si c'est pas Richter que vous aimez plus?
Bon, c'est une. Bon, on appelle ça le moment sismique, mais ça serait trop technique pour la minute qui nous reste à vous expliquer.
Hey, on n'a pas le choix.
On va faire nos recherches.
À toutes les fois, on a l'impression qu'on voudrait défoncer l'émission.
Il va falloir que je revienne.
Je vais vous envoyer mes questions parce que moi, j'y tiens. Je veux savoir.
Hey, merci tout le monde d'être là cette semaine avec nous. J'espère que vous avez apprécié. On n'a pas le choix. Il reste 30 secondes de Witness. On va parler à nos amis un peu plus tard. Donc, passez une bonne semaine à l'antenne de Radio Choc, de XM et réécoutez Radio Choc qui va être en rediffusion. On est content, Witness, que tu nous partages tes façons de faire. C'est pas grave, hein? C'est un départ, notre ami Witness.
Non, c'est Tess Demi qui vous fait dire bonjour parce que ça a été raccroché.
Salut Tess Demi, bonne salut, semaine tout le monde.
Bye bye.
Wow, fais-toi-en pas. C'est fini pour cette semaine, mais les gars vont être là la semaine prochaine. Puis l'autre après. Tu comprends le principe? C'est ça, Radio Shock and Friends.